Tout de suite, voici le libre journal de Serge Debecage, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Debecage, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 juillet 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 10, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge Debecage, dirigé ce soir par Bernard Lugan, avec Dominique Vénère, Philippe Conrad, bonjour, bonsoir plutôt, Victoria, bonsoir Victoria,
bonsoir Bernard,
content de vous retrouver.
Et moi aussi.
Et nous recevrons tout à l'heure un universitaire spécialiste de l'Asie centrale, Jacques Népot, avec lequel nous parlerons de la civilisation mongole. Alors, une émission qui va être divisée en deux parties. Une première partie dans laquelle nous allons traiter de l'actualité africaine à l'occasion de la sortie du numéro 40 de l'Afrique réelle et de la publication d'un dossier tout à fait important sur un sujet qui nous concerne directement puisque les troupes françaises sont actuellement engagées dans la zone, un dossier sur l'Itourie. Nous allons voir ce qu'il en est de l'Itourie. Et dans une seconde partie, nous parlerons également de l'actualité africaine, et dans une seconde partie, eh bien, nous aborderons la question du choc des civilisations dans l'histoire à l'occasion de la parution, hier ou avant-hier, ces jours-ci, du numéro 7 de la nouvelle revue d'histoire que dirige Dominique Vénère. La nouvelle revue d'histoire qui a un an.
Oui,
un an. Formidable, formidable. Un an, ça passe vite.
Un an.
Un an. Et la revue qui est de mieux en mieux. Là, véritablement, ce numéro de civilisation est un grand numéro. Nous en parlerons longuement tout à l'heure. Alors, mes chers auditeurs, nous allons donc commencer par l'actualité africaine ou par les questions africaines. Et je donne la parole à Philippe Conrad.
Oui, eh bien, l'Afrique réelle, pour sa part, aura bientôt 10 ans. Nous fêterons le 10e anniversaire avec le numéro prochain.
Le numéro 41, le numéro en 41, octobre, novembre. Oui.
Mais nous allons avoir ces jours-ci le numéro 40 et dont le contenu va fournir la matière de nos débats d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit principalement de l'Ituri. Et donc nous sommes là au cœur de l'actualité. Et puis d'autre part, bien sûr, les événements du Libéria, qu'il est sans doute bien difficile de suivre pour beaucoup de nos auditeurs. Donc, avec Bernard Lugan, nous essaierons d'éclairer la situation à propos de ces deux dossiers. Alors, d'abord, l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, hein, une région à propos de laquelle nous allons d'abord demander à Bernard de nous présenter le cadre géographique, car, comme c'est toujours le cas, pour comprendre le déroulement des événements, et comme l'avait bien expliqué dans son temps Fernand Braudel, il faut d'abord aller s'intéresser à l'espace dans lequel il se déroule. Alors, qu'en est-il de cette région de l'Ituri? Quel est le paysage général de cette partie de la République démocratique du Congo, non loin de cette région des Grands Lacs, Bernard, que vous connaissez bien?
Et l'Ituri est une zone tout à fait intéressante et une zone importante, puisque nous avons des troupes qui sont engagées à l'heure actuelle, nous avons des camarades qui sont sur place et qui ont été engagés donc par le gouvernement français dans cette petite partie nord-est de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, l'ex-Congo belge. Alors l'Ituri tire son nom d'une rivière, c'est un district de cette région qui a été baptisé du nom de l'Ituri, car l'Ituri est la principale rivière qui court dans cette région. Alors il y a deux définitions géographiques de l'Ituri. L'Ituri au sens restreint serait la zone comprise à l'est de la rivière Ituri, et l'Ituri au sens plus large comprendrait une partie la plus orientale de la grande forêt de la cuvette congolaise. Alors nous parlerons des deux zones, l'Ituri dans son sens général. Alors l'Ituri est une zone très particulière car c'est un carrefour géographique. C'est la région qui est située à l'extrême nord du système des Grands Lacs. C'est une région qui touche le lac Albert et c'est une région qui a cette particularité d'être la région qui va se terminer dans la grande forêt. En d'autres termes, l'Afrique de l'Est se termine dans l'Ituri. Au-delà de l'Ituri, nous sommes dans la grande forêt, nous sommes dans une zone de basse terre, nous sommes dans des zones humides, dans des zones forestières. L'Ituri est le dernier prolongement vers l'est de ce monde est-africain. Avec la forêt commence un autre monde, le monde de la cuvette, qui lui est tourné par le système des eaux vers l'Atlantique. C'est le système du fleuve Congo. Tandis que l'Ituri est tourné vers l'est, est tourné vers le lac Albert, et également tourné vers le nord. C'est une région de carrefour géographique et une région de carrefour humain. Plusieurs populations qui se retrouvent rassemblées dans cette région. Alors, l'Ituri, si nous voulons la décrire, cette zone, si nous partons de la forêt à l'ouest. L'Ituri se présente comme un vaste plateau de haute terre qui se situe à 1500-1600 mètres d'altitude. Région de haute terre avec des collines, très fertile et propice à l'élevage. Zone dans laquelle, en théorie, la mouche tsetse ne vit pas. Donc une zone qui va présenter à peu près les mêmes caractéristiques géographiques que le Rwanda, par exemple, ou la région du Kivu. Région fertile, à la fois favorable à l'élevage et à l'agriculture. Si nous continuons notre progression vers l'est, nous arrivons à la hauteur du chef-lieu de l'Ituri, qui est la ville de Bunia, donc nous sommes sur le plateau central, et ensuite, à quelques kilomètres à l'est de Bunia, l'escarpement. Alors un escarpement qui est tout à fait intéressant parce que l'on va chuter de 2400, d'une zone comprise entre 1800 jusqu'à 2450 mètres, l'on va chuter à une zone qui est située à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, car le lac Albert est exactement à 618 mètres au niveau de la mer. Ce qui fait que l'escarpement va présenter sur une surface réduite toute une gamme de climats, allant depuis le climat des hautes terres jusqu'au climat subéquatorial et jusqu'au climat du lac, le climat des basses terres. Et la zone comprise le long du lac, elle présente un aspect steppique, désolé, un peu à l'image des grandes steppes de l'Est africain. Alors cette zone est tout à fait intéressante parce que, bien sûr, en fonction de l'altitude, la pluviométrie va varier. Et en fonction de l'altitude, nous allons avoir des terroirs plus ou moins riches. La grande zone pastorale est celle du plateau central. La zone de Bounia, notamment, où sont les troupes françaises, la zone qui va jusqu'à Irumou. C'est une zone qui contient également un certain nombre de richesses, notamment les mines d'or de Kilomoto, des mines de diamants et de quelques minerais relativement ou plus ou moins rares. Mais attention, contrairement à ce qui est dit dans la presse, ce ne sont pas les richesses qui ont créé la guerre. Les richesses alimentent la guerre, mais la guerre n'a pas été créée parce qu'il y a des mines d'or ou parce qu'il y a des gisements de diamants. C'est une ânerie que nous lisons quotidiennement parmi les idées reçues de la presse, mais cette idée est totalement fausse. Alors, le plus intéressant est que cette région de l'Ituri est une véritable mosaïque ethnique. Une mosaïque ethnique entre plusieurs grandes populations. Disons essentiellement trois grandes populations. Je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que nos auditeurs seraient lassés. Je renvoie à l'étude de l'Afrique réelle qui donne la seule représentation cartographique de ces populations de l'Ituri et qui donne en un dossier la seule publication sur le peuplement de l'Ituri qui soit parue dans la presse, non seulement française mais internationale. Il n'y a que l'Afrique réelle qui donne ces éléments. Donc si les auditeurs sont intéressés par l'Ituri, s'ils considèrent que ce qu'ils lisent dans Le Monde ou Le Figaro ne les satisfait pas, et s'ils veulent approfondir et savoir pourquoi nos soldats sont là-bas et à quels problèmes ils sont confrontés, commandez l'Afrique réelle, car vous avez un gros dossier qui traite de ces questions, précisément, autour de ce thème ethnique, autour de ce thème géographique. Alors, trois grands ensembles de populations divisés en une multitude de tribus. Trois grands ensembles de populations que l'on va regrouper de la manière suivante. Des populations nilotiques, des populations de type Tutsi, et des populations que l'on peut rattacher à ceux que l'on connaît, comme les Hutus du Rwanda ou du Burundi. Il y a également des pygmées, laissons-les de côté, ces malheureux pygmées, ils ont été en partie mangés par certaines milices, ils vivent dans la forêt, ils n'intéressent pas directement notre sujet, ils vivent dans des zones reculées et ils ne sont pas suffisamment nombreux pour tenir un rôle important politique dans la région. Donc, trois grands ensembles divisés en une infinité d'ethnies. Alors, nous lisons ici ou là, dans la presse, que ce qui se passe en Ituri est une répétition nordique de ce que nous avons connu au Rwanda et au Burundi, avec l'opposition entre Tutsi et Hutu. Cette idée est à la fois fausse et exacte. Elle est fausse dans la mesure où, à la différence du Rwanda et du Burundi, où deux ethnies s'affrontaient, les Hutus et les Tutsis, en Ituri, nous avons plus de 10 ethnies. Donc le phénomène est un phénomène qui ne se joue plus à deux, qui se déroule dans un cadre beaucoup plus élargi. L'idée est à la fois juste et fausse, dans la mesure où effectivement, la population qui est menacée à l'heure actuelle est comme au Rwanda et au Burundi, la population Tutsi. Enfin, l'équivalent des Tutsis, les cousins des Tutsis. Ces Tutsis que l'on appelle les Hima en Ouganda et que l'on appelle les Hema en Ituri. Mais ce sont les mêmes, avec peut-être un morphotype moins accentué en Ituri, parce qu'il y a eu des métissages, et nous allons voir comment tout à l'heure. Alors que au Rwanda, le morphotype Tutsi était beaucoup plus, beaucoup plus caractéristique. Mais lorsque l'on nous dit que les événements de l'Ituri représentent la transposition nordique des guerres entre Tutsi et Hutu, c'est une erreur, et une erreur grossière. Pourquoi ? Parce que les populations que l'on pourrait rattacher aux Hutus sont précisément les alliés des Hema dans l'Ituri. Et les populations qui se battent contre les Hema sont des populations d'origine nilotique, qui sont les Lendu. Lorsque nous lisons ici ou là que les Lendu sont les Hutus, c'est une aberration historique. C'est une aberration historique, c'est un contresens linguistique, car les Lendous parlent une langue qui n'est pas une langue bantoufone, qui n'est pas une langue bantoue, et les Hema, eux, parlent une langue bantoue. Pourquoi ? Parce que leurs alliés, ce sont les parents des Hutus qui vivent dans la région, qu'on appelle les Bira. Et l'histoire de la région est une histoire paradoxale, dans la mesure où nous voyons les Hema, qui, comme les Tutsis au Rwanda et au Burundi, et comme les Hima en Ouganda, ont des contrats de servage pastoral avec les Birou, nous voyons ces Hema alliés aux Birou. Et ces populations, ces Birou, ces Babira, les Bira, on appelle Bira, Babira, on trouve divers noms, ces populations sont les cousins des Hutus. Donc nous serions dans une affaire du Rwanda ou du Burundi, mais dans laquelle les Tutsis et les Hutus seraient alliés contre d'autres populations. Et cette alliance est une vieille alliance qui a entraîné un certain métissage. Ce qui explique que parfois le type, le morphotype Hima est plus difficile à mettre en évidence en Ituri qu'en Ouganda, qu'au Rwanda ou qu'au Burundi. Et donc, nous sommes en présence là d'une situation tout à fait particulière, qui fait que l'ennemi commun de tous les groupes de population de l'Ituri se trouve être les Lendous. Ennemi commun de toutes les populations, pourquoi ? Car les Lendous, qui sont des Nilotiques, qui appartiennent à une des branches Nilotiques, sont très anciennement installés dans la région. Ils sont installés peut-être depuis 1000 ans ou 2000 ans. Et les Lendous ont été repoussés par un double mouvement d'invasion. Ils ont été repoussés au nord par un mouvement d'invasion qui a été lancé par la tribu des Alur, A-L-U-R, les Alur, qui sont eux aussi des Nilotiques, mais que l'on peut rattacher au groupe des Chilouks. Et ces Alur, qui sont des guerriers, ont repoussé les Lendous vers le sud. Et le pays Alur, qui est le pays du nord du lac Albert, la région de Mahagi, est une région dans laquelle les toponymes Lendous sont encore très présents. Nous avons donc la preuve que les Lendous, il y a 5 ou 6 siècles, occupaient ces régions, car l'on retrouve des toponymes en langue Lendous. Les Alur repoussent vers le sud les Lendous, au moment où les Hema arrivent depuis le sud de l'Ouganda, c'est-à-dire depuis l'actuel royaume d'une Corée, la région d'une Corée. Les Hema franchissent cette frontière qui n'existe pas, avec leur bétail, ils poussent vers l'ouest, comme les Banyamulenge du Zaïre, qui venaient du Rwanda, ont poussé vers l'ouest, tout simplement, ils sont à la recherche de pâturage, ils poussent vers l'ouest, le phénomène se produit à partir du 15e siècle, peut-être 16e siècle, à un siècle près, on ne le sait pas très bien, et en poussant vers l'ouest, les Hema vont entrer en contact avec les Bira, qui, eux, poussent vers le nord. Une partie de la migration bantoufone qui a bifurqué vers le nord et qui pousse une pointe dans l'ensemble nilotique. Et nous allons voir un phénomène tout à fait intéressant à suivre, une alliance qui va se produire entre les Hema et les Bira. Et les Bira, comme les Hutus au Rwanda et au Burundi, vont passer dans le système de domination pastorale Hema en échange de vaches, en échange de bovins, et ils vont devenir les domestiques volontaires des Hema, des Tutsis locaux. Mais ceci va aller très loin, car toutes les guerres du 19e siècle et toutes les guerres du 18e siècle contre les Lendous vont voir l'association des Bira et des Hema contre les Lendous. Donc quand on nous dit la situation est la même qu'au Rwanda, je dis non. Non, parce que les Tutsis et les Hutus se combattent au Rwanda et au Burundi. Tandis que là, les cousins des uns et des autres se trouvent alliés dans le même système d'organisation sociale. Alors, la situation est compliquée, pourquoi ? Parce que tous les grands peuples, toutes les grandes ethnies d'Ituri ont leur territoire. Nous savons que les Logos sont dans le nord, les Kakwa dans le nord-est, les Madi au nord des Kakwa, les Lugbera au sud, les Alur dans la région de Mahagi, les Mabendi, tous ont leur territoire. Les Lendu ont leur territoire, les Bira ont leur territoire. Ceux qui n'ont pas de territoire, ce sont les Hema. Pourquoi ? Car les Hema étant des pasteurs, se sont dissociés dans l'espace. Les Hema ayant besoin d'espace pour faire pâturer leurs troupeaux étaient obligés de se disperser dans l'espace. Et les Hema avaient besoin d'avoir autour de leurs implantations des populations pour les servir. Car le principe Hema Tutsi est un principe de servage pastoral. Les Hema n'allaient pas faire le travail qui était considéré comme un travail réservé à des ethnies d'extraction inférieure. Ils n'allaient pas s'abaisser à faire un certain nombre de travaux. Il leur fallait des domestiques, il leur fallait des serfs. Ce qui fait que les Hema se sont dispersés dans l'ensemble du plateau des hautes terres de l'Itourie. Ils ont une zone de concentration vers Kasséni sur le bord du lac, mais essentiellement ils sont dispersés. Ils sont dispersés en territoire Lendu, ils sont dispersés en territoire Bira, ils sont dispersés dans les territoires de toutes ces ethnies de l'Itourie. Ce qui fait que, quand la guerre de l'Itourie a éclaté, eh bien, il s'est trouvé que les Lendu, qui sont majoritaires, ils ne sont pas majoritaires dans l'absolu. C'est-à-dire que les Lendu ne représentent pas 50% de la population de l'Itourie. Mais les Lendu constituent la principale population de l'Itourie. Par exemple, en Itourie, alors, statistiques que je donne qui sont absolument inconnues, statistiques qui sont des statistiques qui sont anciennes déjà, puisqu'elles datent de la toute fin de la période coloniale belge. Disons qu'en 1958, à 2 ans de l'indépendance, les Belges qui avaient fait une statistique ethnique en étaient arrivés au résultat suivant. Les Lendu, 24%, les Alur, 19%, les Lugbera, 16%, les Hema, 15%, les Bira, 11%, et le reste des autres ethnies. Donc les Lendu sont les plus nombreux, ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont les plus nombreux. Si demain, des élections ont lieu dans l'Itourie, puisque les partis ethniques existent, ceux qui vont remporter les élections sont les Lendu. Les Lendu ont cru que la victoire était arrivée. Ils ont cru que la victoire était arrivée, grâce à la démocratie, et ils se sont soulevés. Et ils ont commencé à massacrer leurs voisins. Alors, ils ont commencé par massacrer tous ceux qui les haïssaient et tous ceux qui les méprisaient. Ils ont commencé à s'attaquer aux Alur, les Alur qui les avaient chassés du nord de l'Itourie. Résultat, les Alur se sont constitués en milice, et cette milice est opposée aux Lendu. Ils ont ensuite attaqué les Hema. C'était facile, puisque les Hema étaient dispersés. Il s'est passé là ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi, quand les soulèvements des Hutus sont tombés en masse compacte sur quelques petits campements de Tutsis. Alors les Tutsis, en 59-60, au Rwanda, se sont défendus. Mais quand vous avez une famille de Tutsis assaillie par des milliers ou des centaines de Hutus, eh bien la famille se fait massacrer, même si les hommes de la famille se battent jusqu'au bout, même s'ils en mettent au tapis avant de tomber, mais ils sont submergés sous le nombre. Ce qui fait que les Tutsis, enfin les Hema de l'Itourie, se sont fait ethnocider dans les zones Lendu. Et que s'est-il passé? Eh bien, les milices d'autodéfense Hema qui se sont créées ont fait la part du feu. Elles ont regroupé leurs troupes, leur population, et elles les ont rassemblées dans des lieux défensifs. Il n'est plus possible de tenir l'ensemble des campements dispersés en pays Lendu, car les Lendu étaient beaucoup trop nombreux. Donc, pour échapper à l'ethnocide, ce qu'ont fait les groupes de défense Hema, c'est de rassembler les survivants et de les installer autour d'un certain nombre de pôles défensifs. Et ils ont décidé de s'installer à Bounia. Donc l'importance de l'intervention française est considérable, parce qu'elle peut avoir des conséquences qui peuvent aller au-delà de ce qui était prévu. Pourquoi ? Parce que les Hema sont moins nombreux que les Lendu. Mais ils ont une tradition guerrière que n'ont pas les Lendu. Et les Hema ont réussi à prendre la ville de Bounia, qui est une ville qui était essentiellement peuplée par des Lendu. Ils ont chassé les Lendu de la ville, et ils ont regroupé leurs gens dans cette ville de Bunia. Un peu comme à Bujumbura au Burundi, les Tutsis ont dû abandonner sous la masse la quasi-totalité de l'intérieur du Burundi, et ils se sont retranchés à Bujumbura et dans sa périphérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cas du Burundi, puisqu'il y a la guerre civile, si une force internationale intervient dans la capitale, à Bujumbura, de fait, elle va intervenir contre les Tutsis pour le profit des Hutus. Car ce ne sont pas des Hutus qui s'opposeraient à cette force internationale à Bujumbura, ce seraient les Tutsis, dos au mur, défendant leur dernier territoire. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec l'Ituri. Car quand les Tutsis se faisaient massacrer, les Hema Tutsis se faisaient massacrer il y a 2 mois, personne n'est intervenu pour mettre un terme au massacre. L'intervention française s'est faite à partir du moment où les Tutsis, les Hema, repliés à Bunia, ont mis la pâtée au Lendu et ont commencé à les massacrer dans la région de Bunia. Donc l'armée française est intervenue en fait, de fait, pour sauver les Lendu qui venaient de prendre une raclée par les Hema. Ce qui fait que, alors que ce n'est pas du tout le but de l'état-major du ministère français des Affaires étrangères, le but était simplement une interposition. Dans les faits, si la situation dérape, elle dérapera entre les Hema et les Français. Car qui tient Bunia? Ce ne sont pas les Lendu, puisque les Hema les ont chassés. Ce sont les Hema. Si la France veut désarmer une milice, elle va désarmer la milice des Hema, pour le plus grand profit des Lendu, qui eux sont en brousse, attendent le départ des Français pour essayer de profiter de la situation pour finir d'ethnocider les Hema. Alors voilà la situation de l'Ituri. C'est une situation excessivement complexe, avec des implications régionales et, j'allais dire, internationales. Pourquoi? Parce que les pays voisins jouent des rôles tout à fait particuliers. Les pays voisins, essentiellement l'Ouganda et le Rwanda. Quelle est la politique de l'Ouganda? Il est évident que le Zaïre n'existe pas. La RDC n'existe pas. La région de l'Ituri est le prolongement naturel de l'Ouganda. C'est clair. L'Ituri n'est qu'un district perdu dans ce conglomérat artificiel qui est créé par la colonisation qu'on a appelé le Congo belge. Cette zone située à l'ouest du lac Albert est le prolongement naturel de l'Ouganda, et cela jusqu'à la grande forêt, jusqu'à la rivière, jusqu'à la zone d'Irumu, jusqu'à la ville d'Irumu à peu près. La forêt commence à Irumu. Jusqu'à Irumu, nous sommes dans un prolongement naturel de l'Ouganda. Ce qui fait que les Ougandais sont chez eux, là. Cette zone dépendait du royaume du Bunyoro, qui était un des royaumes de l'ouest du Bouganda à l'époque précoloniale. Les Hema installés dans cette zone dépendaient du roi du Bunyoro. L'investiture des chefs Hema de l'Ituri était donnée par la cour du Bunyoro. Les Hema parlent une langue bantou dérivée des parlers du Bunyoro. Donc nous sommes dans une zone qui, culturellement, politiquement, stratégiquement, géopolitiquement, fait partie de l'Ouganda. Ce qui fait que les Ougandais, en 1996-97, ont pensé que cette zone allait pouvoir leur être rattachée. En 96 notamment, lorsqu'ils sont entrés militairement dans la région. Et les Ougandais ont mené une politique d'équilibre entre les ethnies. Car les Ougandais se sont dit qu'ils n'allaient pas déclencher une guerre contre telle ou telle ethnie, puisque cette zone allait, d'une manière ou d'une autre, passer sous leur protectorat. Donc les Ougandais ont essayé de jouer avec les diverses composantes ethniques de la région. Et les Ougandais ont tenté de rassembler toutes ces milices ethniques dans le cadre d'un grand mouvement fédéral tourné vers Kampala. À ce moment-là, ceux qui étaient tenus à l'écart du phénomène étaient les Lendu, car les Lendu étaient détestés par tout le monde. Mais toutes les autres ethnies, même également en partie Lendu, participaient à ce mouvement. Et puis, il s'est passé que le mouvement qui avait été créé, par l'Ouganda et le Rwanda pour donner un habillage à la conquête du Congo Zaïre à l'époque du maréchal Mobutu, ce mouvement était le RCD, le Rassemblement Congolais pour la démocratie. et ce rassemblement congolais pour la démocratie a éclaté en deux. Un mouvement nordiste et un mouvement sudiste. Le mouvement sudiste était un mouvement tourné vers le Rwanda et dont le fief était à Goma, sur la frontière au nord du lac Kivu entre le Congo Zaïre et le Rwanda. Donc le RCDG, RCD Goma, qui était une diverticule de l'état-major rwandais. Et l'autre partie du mouvement a éclaté au nord et est devenue le RCDML, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, mouvement de libération, tourné vers l'Ouganda. Et le responsable de ce mouvement était un chef politique qui était un universitaire, qui n'a pas été capable de conserver la direction du mouvement et qui s'est fait évincer au profit d'un chef Nandé, N-A-N-D-E. Alors, qui sont les Nandés? Les Nandés constituent une population qui est apparentée au Bira et qui a pour fief la région de Béni. Béni, qui est située entre le lac Albert et le lac Édouard, à l'ouest de la Grande Forêt, dans cette zone située entre le lac Albert et le lac Édouard, pas loin de la frontière entre l'Ouganda et le Zaïre, Congo-Zaïre. Et ce chef Nandé a pris le contrôle du mouvement, et prenant le contrôle du mouvement, petit à petit s'est brouillé avec Kampala. Il s'est brouillé avec Kampala, avec l'Ouganda, et se brouillant avec l'Ouganda, il s'est trouvé confronté à un ensemble d'ethnies et de milices ethniques qui étaient armées par Kampala. Et au même moment, Kampala, pour essayer de prendre pied d'une manière puissante au Congo Zaïre, s'est mis à soutenir le mouvement de Jean-Pierre Bemba, le mouvement de libération du Congo, le MLC, composé essentiellement d'anciens mobutistes et qui recrutait essentiellement chez l'Ngbandi, qui était l'ethnie du maréchal Mobutu, qui vivent dans la région nord, le long de la frontière de la République centrafricaine, du côté sud du fleuve. Et à partir de ce moment-là, la situation a échappé à l'Ouganda. Et la situation échappant à l'Ouganda, on a vu apparaître dans la région un retournement de situation. En d'autres termes, le chef Nandé, qui avait pris la tête du mouvement RCD-ML, voyant qu'il était coincé de toutes parts, s'est tourné vers Kinshasa et a demandé que le pouvoir de Kinshasa soit restauré dans l'est du Zaïre. Ce qui fait que Béni a été la première ville de l'est du Zaïre à se rallier à Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa n'entendait pas tant. Or, le plan de l'ONU, c'était cela. Le plan de l'ONU, car nous sommes dans le cadre de l'intangibilité des frontières, nous sommes dans l'a priori de l'intangibilité des frontières, dans l'a priori de la défense de cet état artificiel qu'est le Congo-Zaïre, la communauté internationale est pour une reconstruction du Congo-Zaïre sous la direction du fils Kabila qui est président à Kinshasa. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, trois partenaires se sont trouvés opposés dans la région. Le Rwanda au sud, l'Ouganda au nord et l'armée de Kinshasa. Les milices Lendu ont cru qu'elles pouvaient jouer leur carte à ce moment-là et les milices Lendu ont essayé de prendre le pouvoir dans la région de l'Ituri. Et à ce moment-là, tout a éclaté. Tout a éclaté parce que le Rwanda a porté assistance à ses frères Emma, car l'Ouganda s'était mis en retrait. Et l'Ouganda avait été sommé de retirer ses troupes par la communauté internationale. Donc l'Ouganda a retiré ses troupes. Donc le massacre a commencé immédiatement. Les Rwandais ne voulaient pas laisser les Hema se faire massacrer. Donc les Rwandais ont envoyé quelques cadres. Et depuis un certain temps, les Rwandais formaient des cadres Hema comme ils avaient formé les cadres Banyamulenge. Et bien entendu, avec l'appui de la puissante armée rwandaise, eh bien, les Hema ont mis la pâtée, comme je l'ai dit, au Lendu. Et c'est dans ce contexte-là que l'intervention militaire française s'est faite. Avec, maintenant, une nouveauté, qui était que l'Ouganda, qui avait cherché à créer une diversion et une scission au sein du groupe EMA pour mieux le contrôler, à la suite de ces massacres, l'Ouganda est obligé de constater que les EMA s'étaient réunis, la dissidence EMA avait disparu, peut-être provisoirement, face au danger représenté par l'insurrection Lendu. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très claire. Une ethnisation de plus en plus forte de la réalité ethnique locale, car maintenant, chaque ethnie a constitué sa milice. Les Alur, les Kakwa, etc., tous ont leur milice. Donc la situation est parfaitement explosive et tous sont prêts à se jeter à la gorge. Ils se jettent des... On ne sait pas ce qui se passe en Brousse. On est renseigné sur ce qui se passe à Bounia et dans deux ou trois agglomérations, parce qu'il y a soit des missionnaires, soit deux ou trois éléments de renseignement. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe dans la zone d'Ndango ou des Lugbera. On ne sait pas ce qui se passe dans le sud du pays Logo. On ne sait pas. Peut-être que d'immenses massacres se déroulent. Je ne crois pas que les massacres puissent se faire à grande échelle, car nous sommes dans des zones ethniques homogènes. Et à partir du moment où les zones ethniques sont homogènes, si les massacres se font, ils vont se faire à la périphérie des zones ethniques. Et en plus, toutes ces ethnies du nord de l'Ituri sont plus ou moins apparentées. Les grands affrontements vont se dérouler, et se sont déroulés là, au centre, dans la région de Bounia, parce que nous avons plusieurs ethnies au contact, et l'affrontement se fait essentiellement entre les Lendu et les Ema, Lendu, Bira, Ema, Bira et Ema ensemble, contre les Lendu. Voilà la situation, et ben, nos camarades sont là-dedans, et c'est une situation qui est bien complexe. J'espère simplement qu'avant d'envoyer nos troupes, le ministère de la Défense a regardé, pas le ministère de la Défense, mais le ministère des Affaires étrangères a regardé une carte pour voir un peu quelle était la situation, qui était qui, et quels étaient les liens entre les divers pays, quelles étaient les composantes, quels étaient les dangers, quels étaient les pièges à éviter, parce que tenir Bounia ne pose pas de problème, ce serait facile. Nos troupes savent faire. Tenir la périphérie de Bounia ne pose pas tellement de problèmes non plus, mais ça ne réglera pas la question. Pour régler la question, il faudrait pacifier l'Ituri. Mais là, ce n'est plus 900 hommes qu'il faut, ce sont des milliers. Puis une fois que l'Ituri sera pacifié, on ne sera pas plus avancé pour cela. Parce qu'il y aura toute la question, tout l'Ouélé, le haut Ouélé, puis il y aura le Maniema. Alors, faire quoi? Recoloniser le Congo belge? Ah, évidemment. Pour les habitants du Congo, une recolonisation serait l'idéal. Mais pas pour l'Europe. Car nous n'avons aucun intérêt à nous lancer dans une aventure insensée et sans fin. Surtout, pour faire quoi? Pour maintenir en vie la fiction d'un État qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Il faut démembrer. La seule solution est de démembrer le Congo Zaïre. Parce que ce Congo Zaïre qui n'existe pas pourrait donner naissance à un certain nombre de zones parfaitement viables. Par exemple, vous avez tout l'est du Congo Zaïre, toute cette région, Ituri et Kivu, qui doivent être attachés à l'Ouganda et au Rwanda. C'est évident, c'est une évidence historique. De part et d'autre de ce Rwanda et de cet Ouganda, et vers l'ouest, il n'y avait pas d'États organisés. Il y avait un émiettement tribal. Les pôles politiques forts de la région sont l'Ouganda et le Rwanda. Le Burundi moins, parce qu'il est dans une phase de guerre civile telle que le Burundi n'existe plus. Au sud, bien au sud, les grands empires Luba et Lunda ne demandent qu'à renaître, avec les richesses qui sont celles du Kasaï et du Katanga. Autant l'idée d'existence de ces provinces est étouffée par l'État congolais, autant deux vastes États, Lunda et Luba, au sud, pourraient avoir une justification historique, culturelle, ethnique. Enfin, sur l'Atlantique, refaire renaître le grand royaume de Congo. Le grand royaume de Congo, qui est un royaume qui s'étendait sur le nord de l'Angola, qui s'étendait sur la partie du bec estuaire du fleuve Congo et sur le sud du Congo-Brazzaville. Cette zone est absolument dessinée par la géographie et par l'histoire. Et cette zone est riche, il y a du pétrole. Le royaume de Congo. Alors, au centre, que faire de la forêt? Mais la forêt du Congo est une des plus vastes au monde, et elle n'est pas abîmée comme la forêt de l'Amazonie. Eh bien, comme ne vivent dans cette forêt que des okapis et des pygmées, pourquoi ne pas déclarer cette forêt patrimoine de l'humanité et patrimoine de la diversité biologique de l'humanité, et le faire gérer soit par l'ONU, soit par des ONG spécialisées? Et il resterait le Nord, le pays Nbandi et le pays du fleuve au Nord. Eh bien, l'apparentement ethnique autoriserait de supprimer la République centrafricaine, de rattacher le sud de la République centrafricaine, peut-être au Tchad, et dans tous les cas, de créer un grand état du fleuve qui prendrait du centre de la République centrafricaine jusqu'à la lisière de la forêt, zone effectivement qui, dans l'immédiat, n'a rien pour vivre et qui vivrait de la charité internationale. Mais mieux vaut faire vivre une zone réduite de la charité internationale en pacifiant la zone que de faire vivre l'ensemble de l'Afrique centrale de la charité internationale avec en plus des risques de guerre et la contagion dans tous les pays voisins, ce qui pose un problème. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Voilà donc la situation de l'Ituri. Alors cette situation de l'Ituri, telle que je vous l'ai présentée, chers auditeurs, vous n'avez pas entendu cela ailleurs, tout simplement parce que nous sommes dans un monde totalement inconnu. Personne ne connaît l'Ituri. Moi, je connais l'Ituri. Je suis allé en Ituri plusieurs fois. J'ai chassé dans les zones du lac Albert. Et je connais bien cette région. J'ai roulé ma bosse dans toutes ces zones. Bon, donc nous sommes 3 ou 4 en France à connaître l'Ituri. Bien évident que, donc, connaissant l'Ituri, personne ne pose des questions sur l'Ituri. Il vaut mieux parler de l'Ituri quand on ne connaît pas. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile, on risque pas d'être contredit. Voilà où en est la situation dans le triste politiquement correct de notre pauvre pays.
Les Français sont engagés là-bas pour 3 mois. Et après,
oui, pour long.
Relevés par des Sri Lankais.
Ben, je souhaite bien de la chance aux Sri Lankais.
Réflexion, ça vous inspire?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas quel goût a le Sri Lankais, mais si le Sri Lankais ressemble aux pygmées, il va finir dans la marmite, comme les pygmées. C'est véritablement le vol à puc international.
Il y a d'autres éléments que les Français, là, qui interviennent.
Non, ce sont les Français. Il y a quelques Sénégalais, il y a 2-3 Anglais, il y a une antenne médicale espagnole. Ce sont les Français qui sont là. Qui savent faire, les troupes qui sont là. Ce sont des marsouins qui connaissent manière. Bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Mais ça va résoudre quoi? Ça va résoudre quoi? C'est un pansement sur une jambe de bois. Ça ne sert strictement à rien.
Ça gèle une situation.
Ça gèle provisoirement.
Artificielle et provisoire.
Ça cristallise des haines. Parce que, en ce moment, dans tout l'ensemble de ce monde pastoral qui part du lac Albert et qui va jusqu'au lac Tanganyika, quelle est l'idée qui circule? Les Français, une nouvelle fois, sont intervenus contre nous. Même si telle n'est pas l'idée, et ce n'est pas l'idée du ministère des Affaires étrangères, de fait, l'intervention française se fait au profit des Lendou contre les Hema. Car quand les Hema se faisaient massacrer, les Français ne sont pas venus. Pendant le génocide du Rwanda, en 1994, pendant les semaines de massacre, quand les Tutsis se faisaient massacrer, les Français ne sont pas venus. Les Français sont venus quand? Quand les Tutsis avaient gagné la guerre. Quand il n'y avait plus de massacre de Tutsis par les Hutus. Parce que les Tutsis avaient gagné la guerre. Donc c'est une méconnaissance ou une hypocrisie. Alors dans tous les cas, dans ces pays, on dit les Français, une fois de plus, viennent intervenir contre nous. Et le Rwanda, l'Ouganda ont fait patte de velours. Parce que dans cette question-là, les Américains et les Anglais n'ont pas envie d'être en pointe et laissent donc les Français jouer. Donc il n'y a pas eu d'opposition. Mais il ne faudrait pas que nous restions trop longtemps là-bas. Hein. Car si nous restions trop longtemps là-bas, nous pourrions avoir, non pas d'ennuis militaires, parce que militairement la situation est facile à tenir, mais nous pourrions avoir des frictions et puis quelques pertes avec des milices. Parce que il est bien évident que les milices EMA ne vont pas se laisser voler la victoire par une intervention militaire française. Car les EMA étaient en train de gagner la guerre dans la région de Bounia. Voilà. Question d'auditeur, cette question...
Oui. Il y a une opinion définitive d'un auditeur qui vous dit « Mais par pitié, que ne laisse-t-on ces ignobles gens qui se haïssent entre eux autant qu'ils nous haïssent et nous jalousent continuer à se massacrer entre eux comme ils l'ont toujours fait sur l'ensemble du continent africain ?» En dehors d'engrosser leurs femmes à raison de 6 ou 7 enfants en moyenne, que savent-ils faire d'autre?
Oui, mais moi je ne posais pas la question comme ça. Je dirais que quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes là-bas? Si ce sont des raisons destinées à reprendre pied en Afrique, dans cette région dans laquelle nous sommes partis vraiment tristement après les erreurs du gouvernement socialiste dans la période 1983-1992-93, je dirais tant mieux. Mais je voudrais simplement savoir si nous sommes partis là-bas en connaissance de cause, en connaissant bien le dossier. Si les hommes qui sont partis là-bas, au moins leur chef, avaient eu avant comment dirais-je, des topos. Disant, voilà, vous allez arriver à Bounia. Alors, à Bounia, vous êtes tombé sur des Hema. Alors, les Hema, vous voyez, sont des gens qui sont comme ça, qui pensent comme ça, qui ont telle histoire. Et puis, les Hema, alors, sont alliés des Bira. Mais par contre, ils s'entendent très mal avec les Lendous. Alors, les Lendous sont des gens qui parlent telle langue, qui sont comme ça, qui ont tel mode de vie, etc. Et puis, alors, les Lendous sont détestés aussi par les Alours. Oui. Alors, si, véritablement, ils ont eu cette formation, je dirais, bah, très bien. C'est un coup politique, mais nos hommes sur place sont au courant de la situation, ils savent ce qu'il faut faire. Et je ne vois pas qui a pu expliquer ça, à nos hommes, parce que je ne vois pas qui aurait pu le leur dire, car en France il n'y a personne connaissant cette zone. Alors peut-être que les Français ont fait venir des Belges. Alors peut-être ont-ils fait venir l'un ou l'autre de mes confrères et collègues belges, telle ou telle université, connaissant bien la question. Bon, alors ça tant mieux, mais à ma connaissance, je ne sais pas du tout si cela s'est produit. J'ai peur que l'on ait un peu parachuté nos gens sur un objectif non tellement défini et en saut de nuit. Et bon, ils savent faire, d'accord. Et après ? Ah, et après, dans 3 mois, quand ils vont partir, car nous n'allons pas rester à vie à Bounia.
Oui, vous pensez qu'on partira bien au bout de 3 mois ?
Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Donc, moi, je ne suis qu'un malheureux historien, un malheureux ethno-historien. J'essaie de vous expliquer la situation. Ce qui va se passer, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Et donc, je ne sais pas quel est le plan. Ce que va faire l'ONU, ce que vont faire... Il est évident que les malheureux Sri Lankais qui vont arriver à Bounia vont se trouver dans une situation un peu étonnante. Ils vont déjà être méprisés par les milices de tous bords. Après le comportement des Uruguayens, les Uruguayens qui se sont terrés dans leur casernement, ils sont pas sortis de leur caserne, ils se sont cachés dans leur cantonnement et ils ont laissé les massacres se produire autour d'eux. L'incompétence et la lâcheté de ce contingent de l'ONU, mais avec l'ONU on a l'habitude, on sait très bien. Moi je ne suis pas du tout du genre à chanter les louanges de l'ONU comme certains dans nos milieux l'ont fait. Moi je reste fidèle. Si dans certains il y a quelques temps, parler pour l'affaire irakienne, il faut que ce soit l'ONU qui gère l'affaire. Moi, je reste fidèle à l'analyse que faisait le général de Gaulle sur la question de l'ONU. Hein. Le machin, là, de Gaulle, on peut dire beaucoup de choses de Gaulle, mais sur l'un ou l'autre problème, notamment celui de l'ONU, il avait eu des phrases définitives. C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'un gouvernement se disant gaulliste fasse appel à l'ONU. Laissons les gaullistes régler leurs problèmes entre eux. Victoria.
Question, est-ce uniquement l'existence d'un ennemi commun qui a créé l'alliance de deux ethnies se combattant au Rwanda et au Burundi ?
Ah non, mais attention, ce ne sont pas les mêmes, ce sont des cousins, l'Afrique est vaste, vous voyez, entre le Rwanda et la région du lac Albert, il y a plus de 1000 kilomètres. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont cousins. Les linguistes savent que les Bira sont les cousins des Hutus. Mais encore, ils appartiennent à deux branches de ce rameau bantoufone, séparés depuis plus de 1000 ans, plus de 1500 ans. Donc, ils ne savent pas. Le Bira qui était le vassal du Hima dans la région d'Irumu, n'avait même pas l'idée de l'existence du Rwanda et de Hutu qui vivaient dans la région de Kibuye. Nous sommes dans un tout autre schéma. Nous ne sommes pas du tout dans un schéma de peuples unis sur de vastes territoires ayant une conscience nationale à l'échelle d'une tectonique ethnique. Pas du tout. Nous sommes à l'échelle de tribus qui ont des alliances locales pour telle et telle raison. N'ayons pas l'approche européenne de la question.
Est-ce que la tournée de M. Bush en Afrique modifie votre point de vue sur les intérêts américains pour ce continent ?
Non. Non, nous en parlerons tout à l'heure, mais si vous voulez... Bon, on en parle tout de suite de la tournée de M. Bush, puisque l'heure tourne. C'est de la poudre aux yeux. Poudre aux yeux, comme l'avait été la tournée du président Clinton. Je l'ai annoncé sur Radio Courtoisie il y a 6 mois. Les élections primaires américaines vont commencer en septembre. À partir des 2 ou 3 mois qui vont précéder le mois de septembre, vous allez voir l'agitation des lobbies. Et parmi ces lobbies, il y a le lobby noir américain, qui représente 25 ou 30 millions de personnes, donc ça fait des millions d'électeurs. Donc le président Bush est obligé de faire un clin d'œil à l'électorat noir, qui vote généralement démocrate, pour essayer d'avoir ses voix pour les élections. Donc du vent, d'où la grande déclaration, l'imposture de Gorée, Je ne sais pas si vous avez regardé, chers auditeurs, hier les télévisions, l'imposture de Gorée. Ce que j'explique dans mon livre « God bless Africa », quand je parle de l'imposture de Gorée, en expliquant ce qui s'est passé à Gorée, et j'explique que la maison des esclaves n'est pas une maison d'esclaves, c'est une maison qui a été construite après la fin de la traite des esclaves, qui a été construite par une métisse de Saint-Louis, dont nous connaissons le nom, et qui avait construit cette maison. Et ce qu'on montre comme les geôles pour les esclaves, c'était les entrepôts pour la nourriture et pour les marchandises. Alors, il y avait bien sûr peut-être 7 ou 8 esclaves domestiques, comme dans toutes les grandes maisons africaines, ou 20 ou 30, mais la traite des esclaves n'existait plus à Gorée. Et quand on vous montre à Gorée l'ouverture qui débouche vers l'embarquement des esclaves, c'est une ouverture qui, un homme passe en baissant, moi je ne passe pas avec ma grande taille, passe en baissant la tête, et on débouche sur des rochers. Comment voulez-vous que des vaisseaux négriers puissent accoster? Alors, il fallait que les vaisseaux restassent au large, et il fallait que sur des chaloupes étaient embarqués les esclaves. Bon, c'est une plaisanterie, c'est une histoire pour petits-enfants. La recherche historique a fait litière de cette maison des esclaves. Il n'y a plus que le pape pour y croire, quand le pape est venu à Gorée pour s'excuser au nom de la chrétienté auprès. Il s'est excusé devant des chefs musulmans dont les grands-parents pratiquaient l'esclavage. C'est quand même un paradoxe extraordinaire. Le pape a donné la caution du mensonge historique à ceux qui tirent une rente de situation de cette non-existence de maisons des esclaves pour demander à l'Europe des réparations. Alors, nous l'avons vu hier à la télévision, le président Bush déclarant de manière totalement grandiloquente, oubliant que ses ancêtres étaient des acheteurs d'esclaves. Enfin, c'est tout à fait. On croit rêver, on marche sur la tête. Alors, cette tournée va aboutir à rien, parce que les promesses qu'il fait, donner de l'argent pour lutter contre le sida. Bon, je veux bien qu'il donne de l'argent pour lutter contre le sida, ça part d'un très bon sentiment. Est-ce que ça va régler les problèmes politiques de l'Afrique? Non. Deuxièmement, il va aller en Afrique du Sud. Il va être très mal reçu en Afrique du Sud. Thabo Mbeki va bien le recevoir. Mandela déteste Bush depuis les affaires de l'Irak. Et la population sud-africaine, à part les anglophones blancs, qui sont totalement tournés vers l'Amérique, toute la population sud-africaine, blanc comme noir, est anti-américaine et était contre l'intervention en Irak. Donc il va arriver, que va-t-il faire en Afrique du Sud? Aucun résultat. Alors, les seuls résultats qui vont être tangibles sont des résultats qui vont se produire en Ouganda, où le président Bush va être reçu, où il va renforcer ou conforter le pouvoir du président Museveni en lui disant « Attention, il faut quand même cesser de faire la guerre en Ituri, il faut être un peu plus démocrate, mais vous êtes quand même un bon élève parce que vous avez libéralisé, c'est très bien. » Et l'on va voir que dans les importations américaines depuis l'Afrique, quelques ouvertures vont être faites, mais une goutte d'eau dans l'océan. 1% du commerce extérieur des États-Unis se fait avec l'Afrique. Et ce 1% se fait essentiellement avec les deux ou trois pays producteurs de pétrole. Or, les Américains ont moins besoin pour le moment de pétrole africain depuis qu'ils ont le pétrole irakien. Bon, mais les proportions vont continuer à rester les mêmes. Et le président Bush va terminer son voyage au Nigeria, car le président Bush veut ancrer la politique américaine en Afrique sur le Nigeria, car le Nigeria est un pays le plus peuplé. Les Américains s'imaginent qu'ils ont trouvé une nouvelle Turquie avec le Nigeria. Ils s'imaginent, les naïfs, qu'ils vont pouvoir utiliser l'armée nigériane pour rétablir l'ordre sous couvert de cadres américains partout où ils voudront en Afrique. Eh bien, je leur souhaite bien du plaisir, parce que le Nigeria est une immense pétaudière dont nous avons déjà parlé ici, nous en reparlerons encore.
Quelques expériences d'intervention des casques blancs, n'est-ce pas?
Ah oui, non, c'est tout à fait là. Alors voilà. Alors, c'est une tournée qui c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'effet d'annonce. Il n'en sortira rien. Rien.
Donc, Sénégal, Nigeria, Ouganda, Afrique du
Botswana,
Sud.
Botswana, je crois.
Ah, voilà, il y a un cinquième pays.
Alors, le Botswana, qui est un État particulier, un État monoethnique et riche, qui est le seul exemple de réussite en Afrique.
D'ailleurs, c'est un peu peuplé.
Oui, 1 million d'habitants. Et le Botswana existera-t-il encore dans 20 ans? On ne sait pas, parce que le Botswana a un taux de 50% de sidaïque.
C'est ça.
Ou de séropositif. C'est le pays le plus touché en Afrique. Et c'est un pays vide, très beau pays,
beaucoup de gibier.
Beaucoup de gibier. Très, très beau territoire pour les réserves animales, très beau territoire de chasse, très beau, des richesses, du diamant, etc. Et le gros avantage du Botswana, c'est un État monoethnique, sans des Tswana, donc c'est surtout de l'Ouest. Et le Botswana a eu l'intelligence d'allier tradition et modernité. Il y a un parlement, Mais les députés sont généralement des députés issus de la chefferie traditionnelle. Donc tout ça est parfait.
Chambre des pairs,
en quelque sorte, une sorte de chambre des pairs. Et voilà un bon exemple là, qui marche. Comme quoi, la démocratie est possible en Afrique si elle est traditionnelle, si elle est basée sur la tradition. Non, mais en revanche, nous allons parler tout à l'heure du Libéria, et là, l'intervention américaine est intéressante car elle va poser des problèmes.
Je suis encore de message. Un auditeur, j'ai relu avec plaisir après la visite de Bush au Sénégal, l'article reproduit dans l'Afrique réelle, numéro 33, précisant que la maison de Gorée a été construite par des Français en 1783.
Non, pas par des Français, par une métisse. C'est une maison construite par des Hollandais et pour une métisse de Saint-Louis.
Mais enfin, Bush et d'autres devraient connaître cet article.
Oui, je développe ça dans mon livre God Bless Africa sur l'imposture de Gorée. Mais je vais me faire un plaisir, je crois que je vais l'envoyer à Bush. Dès que l'édition anglaise sera parue.
Et une auditrice dit, grâce à votre livre God Bless Africa, on comprend mieux tout ce que vous racontez aujourd'hui. Oh. Votre livre est remarquable.
Merci, chère auditrice. Merci. Alors, dernier, autre grand sujet traité par la numéro 40 de l'Afrique réelle, car nous sommes là en plein dans l'actualité, le Libéria. Où là, effectivement, le jeu américain est un jeu plus subtil.
Partira ou partira pas.
Oui.
À propos de Charles Taylor.
Ça ne changera rien, avec Charles Taylor est condamné. Il est lâché par tout le monde. Il est lâché par Blaise Compaoré. Alors, le problème est un problème intéressant, parce que, bien entendu, on nous montre Charles Taylor comme un monstre. Ce n'est pas un enfant de cœur. On oublie de dire qu'il a succédé à un autre monstre, qui était le général Doux, qui était encore pire. Mais général Doux, qui a été quasiment mangé par les hommes de Taylor, lorsque les hommes de Taylor ont pris ceci est une réalité qu'il ne faut pas nier. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que qui est au pouvoir avec Taylor? Ce sont les ethnies du nord du Libéria, les Guio et les Mano, qui sont alliés aux rebelles ivoiriens. Si Taylor s'en va, c'est une victoire pour le président Gbagbo de Côte d'Ivoire. Car si Taylor s'en va, c'est la fin du pouvoir Guillaume Mano, et c'est à nouveau le pouvoir des Crous, des crânes qui font partie du groupe Crous, comme les BT du président Gbagbo. Donc, le combat qui se menait au Libéria était un combat de transposition de la lutte ivoirienne. Les rebelles avaient intérêt à ce que Taylor se maintienne au pouvoir, et Gbagbo avait intérêt à renverser Taylor. Alors, militairement, Taylor était indéboulonnable, parce qu'il avait perdu effectivement du territoire, mais sa zone ethnique était contrôlée, et il défendait la zone de Monrovia. Donc, condamnation internationale, criminel de guerre, relevant du tribunal international. Parce qu'à ce moment-là, il est paralysé. Car qui peut soutenir quelqu'un qui est déclaré criminel de guerre ? L'opération américaine a été très bien montée, parce que qui sont les soutiens américains dans cette entreprise de renversement de Taylor? La Guinée, de l'Ansana Conté, qui est alignée sur les Américains, le président Gbagbo de Côte d'Ivoire, et, dans une certaine mesure, le Nigeria.
La Guinée, au moment de l'affaire d'Irak, n'a pas refusé de suivre les Américains.
La Guinée, au moment de l'affaire d'Irak, a été prise en certain nombre de chantages, et la Guinée a été prise surtout dans une décision prise au niveau du continent africain.
L'Union africaine.
Elle n'a pas pu se désolidariser, car Mandela a dit il n'est pas question qu'un pays africain se désolidarise. Mais la Guinée a toujours haï le président Taylor. Et la Guinée a toujours servi de base arrière dans la lutte contre Taylor. D'ailleurs, le LURD, le mouvement des Libériens unis pour la démocratie, qui lutte contre Taylor, est un mouvement qui, à l'origine, a été créé en Guinée. Et c'est un mouvement qui a été créé par des anciens de la garde présidentielle de Samuel Doux, donc des crânes, alliés aux musulmans, les mandingues, ce qu'on appelle les mandingues, et qui se sont réunis dans le LURD après s'être séparés, et qui sont supportés par les États-Unis, armés par les États-Unis. Alors, embargo militaire pour le régime de Taylor, qui est composé de massacreurs, mais aide militaire américaine pour les gens du LURD, qui sont les anciens massacreurs crânes qui étaient au pouvoir jusqu'en 1991. C'est quand même surréaliste comme situation. Alors, tout le monde savait que les Américains avaient l'intention d'intervenir pour jeter leur glaive dans la balance et pour renverser Taylor. Les rebelles du Lourdes étaient autour de Monrovia. Taylor était assiégé à Monrovia. Donc les Américains avaient prévu une opération humanitaire de dégagement des Européens assiégés et menacés à Monrovia. Et à l'occasion de cette opération, les Américains ont profité pour donner le coup de pouce final permettant aux rebelles de rentrer dans Monrovia et de liquider Taylor. Les Français leur ont coupé l'herbe sous les pieds. Car l'intervention militaire française qui a eu lieu au mois de juin, avec les hélicoptères et les civils étrangers qui ont été héliportés sur le navire de transport de matériel français, je crois que c'est le Foudre qui était au large, l'un ou l'autre des navires de la Marine nationale transport qui était là, a coupé l'herbe sous les pieds des Américains. Car les Américains n'avaient plus le prétexte d'intervenir pour sauver les expatriés menacés par les milices. Donc il a fallu trouver un autre prétexte. Alors, les Américains disant nous ne voulons pas intervenir, se faisant prier pour intervenir, organisant des manifestations de soutien ici ou là pour attirer l'opinion publique américaine dans cette croisade humanitaire, mais surtout aidant en sous-main tous les adversaires de Taylor. Alors, que Taylor soit un monstre, c'est évident. Mais tous sont des monstres, car si le petit frère du général Doux prend le pouvoir, eh bien, on va assister à des scènes complètement de massacres tribaux. Bon, que Taylor soit un monstre, oui, mais que nous nous associons nous à cette chasse à l'homme anti-Taylor serait nous tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, la France est très en retrait dans cette affaire-là, parce que la lutte anti-Taylor est en fait une lutte de Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Les conflits passent d'une frontière à l'autre. Et pour le moment, en dépit des accords de Marcoussi et du replâtrage artificiel, totalement artificiel, qui a été fait en Côte d'Ivoire, embrassons-nous Folleville en ce moment. Mais avant de nous entr'égorger d'une manière sérieuse. Quand ? Je ne sais pas, mais il est évident que les troubles reprendront. Car territorialement, les rebelles tiennent leur territoire. Et le gouvernement tient le sien. Donc le partage territorial de la Côte d'Ivoire est là. L'enjeu libérien est considérable. Car si vous regardez une carte, si vous regardez les cartes ethniques de l'Afrique réelle, vous voyez bien que ceux qui vont prendre le pouvoir, si Taylor est renversé, ce sont les Crous. Et les Crous sont à cheval sur la frontière du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que le président Gbagbo aurait une immense fenêtre d'ouverture territoriale qui s'ouvrirait à l'ouest. Alors que pour le moment, cette fenêtre n'est qu'en partie ouverte, puisque au nord, dans la zone Guillaume-Mano, qui est à cheval sur la zone d'Anyakouba, au nord de la zone BT de Côte d'Ivoire, eh bien, ce sont les rebelles qui sont installés de part et d'autre de la frontière.
Alors, le fameux mouvement du Mpigo, le mouvement ivoirien du Grand Ouest, c'est pas des partisans de Gbagbo, ceux-là.
Ah non, le Mpigo, qui représente pas grand-chose, est composé donc, d'hommes de Taylor.
Ah, ce sont des hommes de Taylor.
Ce sont des hommes de Taylor. Ce sont des hommes qui
un peu fou furieux.
Ah, mais ce sont des drogués, fous furieux. Oui, mais toutes les milices enrubannées, emplumées, droguées et furieuses. J'ai toujours dit que dans la fière ivoirienne, il ne fallait pas confondre les rebelles du Nord et les rebelles de l'Ouest. Les rebelles du Nord sont des gens du Sahel, sont des gens qui sont organisés, sont des gens qui ont un sens de la parole, qui sont encore organisés selon leur structure tribale et leur chefferie, sont des gens, quand ils donnent leur parole, qui la tiennent. Tandis que les Libériens, qu'il s'agisse des gens de Taylor ou des gens du Lourdes, ce sont des fous furieux qui doivent être traités à la 12-7. Il n'y a pas d'autre traitement que la 12-7. Ce sont des massacreurs, des violeurs, des égorgeurs.
Ce sont nos amis légionnaires dans
le
Steve Warren.
Ah oui, là, nos amis légionnaires leur ont montré comment fonctionnaient les choses. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas les troupes de l'ONU.
C'est ça.
Il y a eu un avertissement et deuxième coup, boum, terminé. Depuis, ça ne bouge plus. Non mais oui.
La légion
s'est causée aux drogués emplumés. Bon. Ces gens sont entièrement drogués. Ce sont les mêmes que ceux qui coupaient les bras et les jambes en Sierra Leone, manches courtes, manches longues. Alors, il n'y a rien à faire dans ce pays, si ce n'est un grand nettoyage, parce que tous les enfants soldats sont totalement camés, totalement drogués, ils tirent sur tout ce qui bouge, ils pillent, ils violent, ils sont irrécupérables.
Ouais.
Ça fait 20 ans de guerre, ils sont irrécupérables. Sauf si on les mettait dans nos châteaux en France, peut-être, pour délinquants 4 étoiles. Alors, il faudrait peut-être 50 encadreurs. Dans la galerie des glaces, si on pourrait en mettre un ou deux, encadrés par 50 intermittents de l'encadrement.
Dans la promotion sociale.
Tout à fait. À propos des intermittents du spectacle, moi, j'aimerais tout de même dire quelque chose. Ils ont la même tête que les professeurs qui manifestaient il y a 3 mois.
Je trouve que vous êtes dur pour les professeurs, quand même.
Hein. Ils ont probablement les mêmes têtes.
Des réactions corporatistes, là.
Alors, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup là-dedans. Eh bien, chers auditeurs, si tous ces festivals n'ont pas lieu, si vous êtes privés de tous ces festivals de grande culture, de tolérance d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est une culture, une grande culture de tolérance qui est dans souvent ces festivals, si vous ne savez pas où aller, moi je vous donne l'adresse d'un festival qui lui va avoir lieu tout l'été. Allez donc au Puy du Fou, parce que là, vous n'aurez pas de grève, parce que les gens qui sont là sont des bénévoles, et ce ne sont pas des intermittents qui font la grève pour leurs avantages sociaux. Allez donc au Puy du Fou, aurez une authentique culture française, une authentique culture gauloise, et vous verrez un spectacle extraordinaire, et ce sont les habitants de la région qui par bénévolat, font marcher le Puy du Fou. Exemple à donner à nos intermittents du spectacle. Voilà, fin de la parenthèse là-dessus. J'espère que le gouvernement ne va pas lâcher là-dessus et que cette pseudo-culture va elle-même s'ethnocider. Bien. C'est mon allié. Vous voyez, quand j'étais célibataire, je ne faisais pas ce bruit, je n'avais pas d'alliance.
Oui, mais...
oui. Bon, Victor, il n'y a plus d'autres questions ?
Pour le moment, non.
Nous faisons une petite pause musicale et nous reprenons le cours de l'émission. Alors, nous allons entendre des chansons galloises. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors avant d'en terminer avec la partie africaine et avant de passer à la question centrale du choc des civilisations, 2-3 questions d'auditeurs. Victoria ?
Non, pour le moment, non.
Non, mais un auditeur veut une question.
Ah oui, c'est une question à la rondeur du sujet tout de suite.
Un éditeur qui veut...
J'ai acheté le livre God Bless Africa lors de la fête du 10e anniversaire du libre journal de la France courtoise.
Il veut une dédicace.
Mais au moment où j'ai voulu me la faire dédicacer, vous étiez déjà parti. Comment puis-je me faire dédicacer ce livre?
Mais écoutez, à la fête de Radio Courtoisie, là, il y aura probablement sûrement la fête de Radio Courtoisie à la rentrée.
Oui,
et bien que l'éditeur vienne avec ce livre et je me ferai un plaisir de le lui dédicacer.
Très bien.
Le problème est réglé. Bien, alors, maintenant, chers auditeurs, il est temps, si ça vous intéresse, de commander l'Afrique réelle, ou de vous abonner. Donc, pour avoir le numéro 40, qui traite donc de l'Ituri, du Libéria, de la Guinée, etc., vous écrivez à l'Afrique réelle, boîte postale numéro 6, 03-140, à Charroux. Le numéro seul est de 20 euros, port compris. Mais il est plus intéressant pour la revue que vous vous abonniez, et l'abonnement pour l'année, pour les 4 numéros... Quel est ce bruit ? L'abonnement est de 58 euros pour les 4 numéros de l'année, toujours à la même adresse, boîte postale
6,
03-140 à Charroux, dans l'Allier. Victoria, nous tournons la page africaine sur pas de regret.
Pourquoi dites-vous qu'une partie du Nigeria devrait être prise en charge par notre État ? La charité ne peut être infinie. Croyez-vous que nos enfants et petits-enfants pourront supporter définitivement qu'on leur charge le dos ?
Mais je n'ai jamais parlé du Nigeria. J'ai parlé du nord du Zaïre. Quitte, plutôt que porter tout le Zaïre, démembrons le Zaïre et supportons la partie non viable du Zaïre par l'aide internationale, la petite région du Nord. Je vais parler du Nigeria.
Qui vous dit, monsieur, que le pape n'est pas venu à Gorée en sachant exactement ce qui s'y est passé ?
Alors, je ne veux pas croire que le pape ait menti. Le catholique que je suis ne peut pas le croire.
Pouvez-vous nous dire le but de la visite de Bush en Afrique ?
Je l'ai dit, électorat noir a courtisé, car les primaires vont bientôt commencer. Bien, terminé. Nous passons maintenant au choc des civilisations. Alors, Dominique Vénère, quel bonheur, quel plaisir de découvrir le numéro 7 de la nouvelle revue d'histoire. Quel plaisir, quel bonheur, parce que la revue est tellement agréable à parcourir. Le sommaire est tellement dense, le sommaire est tellement riche, et je crois que c'est un des meilleurs numéros de la revue. Et Dieu sait que ces numéros sont tous excellents. Alors, j'aimerais vous poser deux, trois questions, et je salue l'arrivée de Jacques Népot dans nos studios, qui va nous parler, lui, de la Mongolie, d'Asie centrale tout à l'heure. Et je suis ravi de retrouver un ancien condisciple de Nanterre, mon cher collègue.
Mon cher collègue,
la faculté de Nanterre, qui emmène à tout, à l'Asie centrale et au monde bantou. Finalement, nous sommes sortis bien loin de ce campus, mais...
Je crois surtout qu'on y a acquis une expérience de terrain irremplaçable.
Ah, je n'osais pas en parler. Une expérience de terrain qui fait qu'effectivement, peuvent pleuvoir grenades et graves. Bien. Bon, nous sommes un certain nombre à sortir de cette matrice et d'avoir quand même eu des destins assez intéressants, inattendus, dans certains de nos collègues. Et généralement, des condisciples qui ont des spécialités un peu rares. Droit japonais... L'Asie extrême-orientale, les ethnies africaines et bien d'autres. Bon, alors, nous allons commencer, si vous le voulez, par présenter le sommaire de cette revue. Alors, pas le sommaire complet, mais un certain nombre d'articles. Alors, tout d'abord, j'insiste tout de suite sur le portrait, entretien, fait avec André Corvisier. Car j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration pour André Corvisier, mon vieux maître. J'ai failli faire mon doctorat d'État avec lui. Il m'avait donné un sujet merveilleux. Et si je l'avais suivi, je n'aurais pas eu tous les ennuis universitaires qui ont été les miens ensuite. Car ma première spécialité, c'était l'histoire militaire coloniale américaine du XVIIIe siècle. Et le professeur Corvisier m'avait donné un sujet de doctorat d'État qui était le soldat français aux colonies au XVIIIe siècle. C'est un beau sujet.
Superbe sujet.
Et les hasards de l'existence ont fait que je suis plutôt parti sur les pistes de la mission Voulez Chanoine, de Fonletto. J'ai une grande admiration pour les travaux d'André Corvisier, grand universitaire. Ces grands universitaires qui ont marqué une époque et qui véritablement ont marqué des générations et qui vous donne, Dominique, un entretien remarquable sur sa conception, pas seulement de la guerre, mais de l'histoire militaire et du choc des civilisations. C'est tout à fait remarquable. Des articles, l'article tout à fait excellent d'Anne Bernet sur Bernard de Clairvaux, l'article de Mester sur Philippe Auguste, l'article sur Jules Monroe, tellement méconnu aujourd'hui, alors qu'il a eu un rôle considérable dans la renaissance de l'intelligence de droite française. Un magnifique article de Georges Lafly, Jules Monroe, déchiffreur du XXe siècle. L'on oublie trop Jules Monroe et on oublie trop le rôle important qu'a eu ce grand penseur dans la maturation de ce qui est devenu la nouvelle intelligence droitière française. Vous êtes bien d'accord ?
Oui, mais notre rôle est de rappeler ces grands esprits qui
en raison même de leur liberté, sont aujourd'hui méconnus.
Un article superbe de Philippe Conrad sur les volontaires nationalistes pendant la guerre d'Espagne, les brigades de Franco, ceux qui se sont battus avec les républicains. Alors, un article, bien entendu, toujours remarquable, quand c'est signé Peyroncé-Lugoz, le grand Peyroncé-Lugoz, sur les chrétiens d'Irak au temps de Saddam Hussein.
Oui, on apprend beaucoup de choses.
On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses, etc., etc. Alors, le débat, bien entendu, sur Napoléon, entre Dominique Jamet et entre Jean-Charles Wagner et Jean-Claude Valla, et le cœur du sujet, le choc des civilisations. Alors je ne vais pas déflorer ce sommaire, car nous allons le dérouler maintenant, ce sommaire, et Dominique, je vais vous poser une question, puisque vous intitulez, en première de couverture, votre revue numéro 7, « Le choc des civilisations dans l'histoire », la question qui s'impose, c'est un sujet qui est un sujet d'actualité, bien sûr, mais c'est un sujet qui est historique. Que peut-on penser de la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations ?
Alors, si nous avons choisi ce sujet et si nous l'avons traité, c'est évidemment en raison de la logique qui est celle de la nouvelle revue d'histoire. Nous nous efforçons d'aborder des questions qui se pose à notre époque et d'y apporter des réponses en nous appuyant sur l'histoire. Le choc des civilisations, c'est une question qui est actuelle, donc nous l'avons traitée à notre façon, c'est-à-dire en nous reportant à l'histoire, en nous reportant à d'innombrables ou à de nombreux chocs de civilisations à travers l'histoire, puisque le choc des civilisations n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est cette formule imaginée par Samuel Huntington, universitaire américain. Il a lancé cette idée au bon moment. C'est incontestablement un homme qui a le sens des opportunités. C'est en 1993, dans la revue Foreign Affairs, qu'un article sous sa signature a lancé cette idée du choc des civilisations. Alors, l'idée était perceptible en soi, mais elle n'était pas exprimée avec force. Ce qui était nouveau, et ce qui a fait le succès, évidemment, de ce concept, c'est d'être formulé avec une certaine profondeur. L'article de 1993, ayant suscité un certain nombre de réactions, Samuel Huntington l'a développé pour écrire un livre, traduit en langue française, etc., qui ne manque pas d'intérêt. Nous allons en dire un mot tout de suite. Samuel Huntington n'est pas un simple universitaire, dirais-je. C'est quelqu'un qui a été associé, comme souvent les universitaires américains, qui a été associé aux affaires internationales américaines, puisqu'il a fait partie de l'équipe de Zbigniew Brzezinski, qui était le chef du Conseil de sécurité dans l'administration Carter. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un esprit éloigné des réalités du temps. Au contraire, lorsqu'il exprime des idées, il y a toujours quelque chose de sous-jacent qui est en prise avec les réalités actuelles, avec les réalités de puissance, etc. Et c'est bien visible naturellement dans son livre. Alors, son livre a fait l'objet de critiques, d'appréciations de toutes sortes. Personnellement, je l'ai lu très attentivement, je l'ai lu crayon en main. Il m'a semblé novateur pour deux raisons. La première raison, c'est que cet article, ou ce livre, est écrit par un Américain et d'emblée, il critique l'interprétation ethnocentriste qui est celle des Américains ou des Occidentaux en général, et il observe que les hommes n'existent que par leur civilisation et que les civilisations sont différentes, que les civilisations traversent le temps. il critique l'interprétation américaine selon laquelle le développement économique permettrait le développement économique et la perspective de mondialisation permettrait de créer un seul monde unifié. Et il dit, cette vision est fausse, elle est immorale et elle est dangereuse parce que elle favorise justement le choc des civilisations. Étant donné que c'est une idée occidentale messianique, en quelque sorte, elle va heurter de front d'autres idées messianiques dans le monde, à commencer par celle de l'islam et de l'islamisme. Il est bien entendu que, écrivant ce livre, Huntington avait en vue le conflit dont la réalité est observable et qui a pris une accentuation tout à fait particulière après le 11 septembre. C'est sous l'éclairage évidemment du 11 septembre que la thèse de Samuel Huntington a pris la force qu'on lui reconnaît. Après avoir dit ce qui est intéressant dans son observation, il faut noter néanmoins certaines limites dans la thèse qu'il développe. Parce que, qu'entend-il par civilisation ?
Oui, justement.
Il entend...
Qu'est-ce qu'une civilisation ?
Pour lui, nous dirons ensuite ce que peut-être nous entendons, nous, par civilisation. Mais pour lui... la civilisation se résume essentiellement à la religion. Alors, a priori, c'est intéressant. Bien entendu, les civilisations, les religions sont des phénomènes de longue durée. Et il est bien évident que les religions influencent fortement les civilisations. Personne ne le contestera. Néanmoins, lorsque Huntington pense religion, il pense essentiellement à des religions de type messianique, c'est-à-dire à des religions monothéistes. Donc il pense au christianisme qui a influencé l'Occident dans son ensemble, et il pense à l'islam. Mais d'autres civilisations sont marquées par, je pense à certaines aussi grandes civilisations de l'Asie, l'hindouisme, la civilisation de la Chine, marquée notamment par le confucianisme, on ne peut pas assimiler ces civilisations ou les phénomènes religieux qui sous-tendent ces civilisations, on ne peut pas les assimiler à une religion comme l'islam, par exemple. Ce sont beaucoup plus des sagesses que des religions au sens monothéiste du mot. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est que Huntington pousse son raisonnement de façon extrême. C'est-à-dire que il dit en substance que depuis l'effondrement de l'URSS, depuis la fin de la guerre froide, nous sommes entrés dans un monde nouveau qui est justement celui du choc des civilisations, c'est-à-dire le choc des grandes religions. Alors, j'ai déjà fait une réserve sur cette notion de religion en attirant l'attention sur les diversités. Toutes les religions ou toutes les civilisations n'ont pas un caractère messianique, contrairement à l'islam et contrairement à ce que fut autrefois le christianisme. Mais Huntington pousse le raisonnement en disant que ce choc des civilisations, cette opposition des civilisations, fait disparaître les anciennes causes de conflit entre les idéologies, entre les nations et les États. C'est-à-dire que le choc civilisationnel, choc religieux, à son avis, fait disparaître en quelque sorte les anciennes composantes de la géopolitique que sont les États, les entités géographiques, les entités historiques, les entités ethniques, les nations. Alors, ce raisonnement est certainement excessif. Qu'il y ait choc de civilisation, phénomène nouveau depuis en effet la guerre froide, depuis le réveil ou l'éveil de l'islamisme moderne, incontestablement, on l'observe, on le voit, c'est évident. Que ce phénomène fasse disparaître les autres composantes des réalités géopolitiques, État, nation, phénomène géographique, historique, certainement pas. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des interactions, peut-être nouvelles, qui modifient les passions, les phénomènes passionnels, puisque la civilisation entendue comme l'entend Huntington revient à dire que des peuples peuvent se mobiliser de façon passionnelle autour de d'idées, etc. Oui, ça c'est incontestable. Il y a interaction, mais cela ne supprime certainement pas les réalités que sont les États et les nations, par exemple. Ça, c'est donc une autre observation. Ce que l'on peut dire encore, et c'est une critique que l'on peut adresser à Huntington, pour lui, il oppose un ensemble qu'il appelle l'Occident à d'autres ensembles, par exemple l'Islam. Alors, qu'entend-il par Occident ? Un cœur qui serait les États-Unis, avec des prolongements que serait l'Europe dans son ensemble, et les puissances d'origine européenne, telles par exemple l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Alors, là, nous rencontrons évidemment une interprétation qui est très américaine, qui correspond incontestablement aux intérêts géostratégiques américains. Peut-on parler d'un Occident qui confondrait à la fois les États-Unis et l'Europe? C'est un sujet que nous avons déjà abordé. Pour ma part, je le conteste profondément en m'appuyant simplement sur l'histoire. Les États-Unis, bien entendu, ont été créés par des populations d'origine européenne pour l'essentiel, indépendamment des populations d'origine africaine. Ce sont les populations d'origine européenne qui ont été l'élément moteur de la création des États-Unis, mais au sein de ces populations, les groupes moteurs de la création des États-Unis ont voulu réaliser, construire une sorte d'utopie réalisée qui était en opposition totale, historiquement et spirituellement, avec l'Europe. Et au cours de l'histoire, notamment celle du XXe siècle, tout montre que le destin des États-Unis est totalement séparé du destin de l'Europe.
Merci Dominique. Nous allons devoir rendre l'antenne pour quelques instants, car il va bientôt être 7h30, et à 7h30, nous devons procéder à la coupure technique habituelle. Je rends le micro à la régie.
My heart with the slave on the silver can. Achen von Gasex in Winai Drachen. My prenguin and Wanach Nagabio Verioid. Ahenok in Hanet, you Gwedi. Mi gysgyd i mafon, mi gysgyd i'n braf. Dywyn eb mor dawel, a diwrnod o haf.
sedd yn llacio wrth ollwng fy llaw. Mi gysgu dim a ban ar bore a ddaw. Mae'r pwll mawr yn ddiach nad o'r corsydd mawn. Bu hwnnw yn gwahodd dol awer bryn hawn.
Merci de passer la soirée avec nous tout à l'heure à 21h, les soirées musicales divisées en trois parties comme chaque mercredi. De 21h à 22h, série jazz avec Franck, à 22h, musique de film avec Claudio, puis toujours avec Claudio. De 23h à minuit, les Quatuors de Beethoven, troisième partie de cette émission. Tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beccach, dirigée aujourd'hui par Bernard Lugan. Très bonne soirée à tous, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Le froid et la famine, par les villes et par les champs, à la peine des victimes, marchaient les partisans.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 juillet 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85. Par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Combien de fois ton papouille, ces deux petites pistes, en traversant la...
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Et nous sommes réunis avec Philippe Conrad, Dominique Vénère, Jacques Népot et Victoria. Victoria, deux, trois annonces avant de repartir dans le cœur de notre sujet.
Deux petites annonces. Alors, les professeurs Folic et Bled vous invitent à l'exposition 1999-2003, Église et monastères du Kosovo, un patrimoine européen en danger. Du 19 juin au 15 juillet, de 10h à 19h à la compagnie des bateaux mouches, pont de l'Alma, rive droite, Paris 8e, métro Alma-Marceau. Table ronde, vente de livres, films documentaires. Contact 01 42 25 96 10.
On n'insistera jamais assez sur le problème qui se pose au Kosovo avec là véritablement une épuration ethnique qui est admise par tous les bien-pensants avec la liquidation de tout ce qui est l'héritage serbe et avec la complicité du mondialisme et de ceux qui nous gouvernent. Donc véritablement une exposition très importante et remercions la compagnie des bateaux mouches de l'avoir hébergée.
Et puis l'Université de la Souveraineté Nationale, organisée par le RIF, président Jean-Paul Bled, se tiendra cette année du 26 au 28 septembre à Artigues, près de Bordeaux. Pour tout renseignement, Anne de Vorex, 01 34 75 19 07.
Merci Victoria. Dominique Vénère, juste avant la coupure technique, vous nous parliez de la thèse du Huntington et de ses définitions plutôt contestables de la réalité de la civilisation. Alors, je vous pose une question toute simple, je vous l'ai posée tout à l'heure, je vous la repose. Qu'est-ce qu'une civilisation ?
Alors, vous savez que pendant longtemps, lorsque l'on parlait de civilisation, on pensait à ce qui s'opposait à la barbarie. C'était ça l'opinion courante. Et ceux qui formulaient cette idée ou cette définition étaient généralement les Européens ou les Occidentaux qui pensaient qu'ils étaient les représentants de la civilisation et que le reste du monde n'était pas forcément exclusivement barbare, mais enfin n'avait pas atteint le niveau prêté à celui de la civilisation européenne ou occidentale. Et puis, d'autres interprétations du mot civilisation sont apparues, notamment au cours du 19e siècle et du 20e siècle. Et deux notions sont à retenir, à mon sens. D'une part, la civilisation, ou les civilisations, puisqu'il est, admettons, bien entendu, contrairement à la première acceptation, qu'il existe plusieurs civilisations qui ont des racines tout à fait anciennes. Civilisation chinoise, qui elle-même qui est une civilisation mère en quelque sorte et qui a des civilisations filles ou secondes telles que le Japon, telles que le Vietnam, telles que la Corée. On pourrait dire la même chose naturellement pour l'Europe. Il y a une civilisation européenne, mais on peut dire, bien entendu, qu'il y a aussi une civilisation française qui est une civilisation seconde, civilisation habsbourgeoise qui est aussi une civilisation seconde, etc. Donc, retenons bien, ayons bien présent à l'esprit cette idée qu'il existe plusieurs civilisations qui ont leurs particularités et qui ont naturellement leur légitimité. Et dans le cadre de cette acception, surgit l'idée que la civilisation est associée à la puissance, c'est-à-dire associée à des réalités géopolitiques. Civilisation égale puissance. Elle est liée, l'idée de civilisation dans ce cas-là est liée, bien entendu, à l'existence d'entités politiques, des empires, des États, des nations. Ça, c'est l'une des acceptions les plus courantes. Il y en a une autre à laquelle à la fois on songe moins et qui est liée dans une certaine mesure à la première. C'est la civilisation en tant que spiritualité et en tant que ensemble de mœurs. Des mœurs qui sont communes à certains peuples et qui traversent le temps avec des variations, avec des habillages qui se modifient, mais avec de grandes constances. Ça signifie que dans cette acception, l'idée de civilisation est associée à celle de la tradition, à celle des mentalités, des permanences des mentalités qui font que les peuples appartenant à une même civilisation auront des réponses analogues devant les grandes questions qui sont celles de la vie, de la mort, de l'amour, du destin, par exemple. Mais cela signifie également, c'est certainement un des caractères de la civilisation, ces mentalités, ces spiritualités sont unies par certaines formes. Le lien entre la notion de civilisation et la forme est important. On peut parler, par exemple, de culture sans qu'il n'y ait de forme précise dans le domaine institutionnel, esthétique. Certains peuples sont porteurs d'une culture, mais ils ne sont pas forcément porteurs d'une civilisation. La civilisation associe une spiritualité, une mentalité, des mœurs et une forme. Voilà pour tracer les contours généraux. Et ce que l'on observe, et c'est, je pense, l'intérêt du dossier que nous avons réalisé, car ce dossier montre qu'il y a eu, à travers l'histoire, bien des chocs de civilisation. Nous n'en avons pas fait le tour. Nous avons sélectionné quelques faits, quelques chocs de civilisation. Il y en a bien d'autres, naturellement. Mais ce qui apparaît au fil de ce dossier, c'est la permanence étonnante des civilisations. On peut dire que les civilisations sont en quelque sorte des personnes, et que ce sont des personnes politiques, d'abord spirituelles, parfois politiques, historiques, de longue durée. Et les civilisations meurent moins facilement que les États, perdurent au-delà, souvent, des formes institutionnelles et des formes politiques qui, elles, peuvent se modifier. Lorsque Paul Valéry a eu la formule bien connue « Nous, civilisation, nous sommes mortels », certes, des civilisations sont mortes. Sans doute, certaines de morts brutales. On pense naturellement aux Aztèques, aux Incas. D'autres civilisations ont perduré à travers le temps avec des formes changeantes. C'est ainsi que pour l'Europe, nos racines sont très anciennes. Elles se perdent dans la nuit des temps, ce qui est vrai pour la Chine, ce qui est vrai pour l'Inde également. Et à travers le temps, les formes ont pu changer, mais la pérennité d'une tradition, c'est-à-dire d'une certaine âme collective qui n'a pas cessé d'animer des hommes et de leur faire apporter des réponses aux grandes questions de l'existence, cela très souvent traverse le temps.
Oui, merci Dominique. Alors justement, dans ce dossier de la Nouvelle Revue d'Histoire, du numéro 7 qui vient de paraître, numéro juillet-août 2003, dans ce dossier, vous démarrez par une illustration du plus ancien choc de civilisation mis en évidence. Vous avez choisi celui-là, et celui qui est attrait à la guerre entre l'Europe et l'Asie, d'une certaine manière, les guerres médiques, le choc de la Grèce face à l'Empire perse. Alors, je me tourne vers Philippe Conrad, et nous parlerons ensuite avec Jacques Népote des problèmes asiatiques, mais je me tourne vers Philippe Conrad, et Philippe, je vous pose une question. Comment s'est déroulé ce premier affrontement, ce premier choc de civilisation Grèce-Asie, et quelles en furent les conséquences?
Alors, c'est un choc qui a vertu de modèle fondateur, un petit peu, des chocs de civilisation, avec l'opposition entre deux mondes présentés comme radicalement opposés. Bon, l'histoire est simple, on a deux espaces bien différents. D'un côté, un empire achéménide, l'empire perse, qui s'est constitué et réalisé son expansion au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a détruit l'empire néo-babylonien, Sumérien qui s'est étendu depuis le Nil jusqu'à l'Indus, qui a poussé plus à l'ouest en subjuguant le royaume de Lydie du fameux Crésus et qui s'est ainsi avancé en direction de la mer Égée, où s'est développé déjà depuis deux siècles en gros le monde des cités grecques à l'époque archaïque, un monde manifestant une brillante vitalité qui s'exprime à travers l'expansion coloniale en Méditerranée, en mer Noire, qui s'exprime également à travers les productions artistiques, culturelles que l'on connaît. Et il se trouve que la rencontre de ces deux mondes va aboutir à un conflit. Les cités grecques d'Ionie installées sur la côte d'Asie mineure vont être obligées de se soumettre au grand roi, et puis ensuite elles vont se révolter, et à l'occasion de cette révolte elles recevront le soutien de deux cités qui sont Athènes, la plus importante, et Érythrée, une cité de B. Face à cela, les Perses évidemment vont réagir, et en 490 avant Jésus-Christ on aura le début des guerres médiques avec l'épisode célèbre de Marathon où les Athéniens de Milciade, les hoplites athéniens vont tenir tête au corps expéditionnaire perse. C'est une première victoire qui prend valeur de symbole, mais ce n'est qu'un début. Xerxès, l'empereur des Perses, veut venger cet affront et va diriger contre la Grèce une expédition beaucoup plus puissante. Hérodote raconte qu'on a vu défiler, avec l'exagération qu'on imagine, pendant 7 jours les armées du grand roi prêtes à marcher contre les cités grecques. Et cette invasion, marquée par la résistance des Spartiates aux Thermopyles, bien connue, marquée par la prise d'Athènes, où les temples de l'Acropole sont détruits, c'est ce qui nous vaudra la magnifique reconstruction ultérieure à l'époque de Périclès, et puis la retrouvaille des statues archaïques des anciens temples au siècle dernier dans le sol de l'Acropole. Cette nouvelle guerre va être marquée surtout par le fait que les Athéniens ont accepté d'abandonner donc leur cité pour continuer la lutte et pour remporter sur mer la victoire navale de Salamine. Et dans la foulée de cette victoire navale, deux autres victoires, les victoires de Platée et du Cap Mégal, vont garantir le succès au moins temporaire des cités grecques. Succès à nuancer, choc bien sûr entre deux mondes différents, celui des cités contre un empire asiatique, entre guillemets, un autre système, c'est évident, héritier des empires orientaux qui l'avaient précédé, avec des nuances. D'abord, dans la première guerre médique, Athènes est très seule, les autres cités grecques ne se mobilisent pas avec elle, et ensuite, après les victoires qui ont été remportées par les Grecs, après la constitution de la Ligue de Délos par Athènes, qui va permettre à Athènes d'imposer son hégémonie pour plusieurs dizaines d'années sur l'ensemble du monde grec au nom de la défense commune contre le Perse. Après ça, il faut bien voir que les grands rois, les Perses, vont jouer un rôle important pendant tout le quatrième siècle, notamment après que la guerre du Péloponnèse eut complètement ruiné ce monde des cités grecques. Les grands rois perses vont jouer un rôle très important en jouant les cités grecques les unes contre les autres. Donc il faut nuancer un petit peu ce choc des civilisations, mais en tout cas dans l'imaginaire des Grecs, les choses ont été perçues ainsi, et bien au-delà de l'imaginaire des Grecs, il est clair que c'est sur la base de ces guerres médiques et à partir des textes d'Eschyle dans les Perses ou du récit que nous fait Hérodote des guerres médiques dans son histoire, dans son enquête, à partir de là, il y a tout un modèle de l'affrontement entre deux mondes différents qui s'est imposé, et dans la mémoire, dans la longue mémoire de l'Europe, il est certain que cet affrontement entre Grecs et Perses, ça a été traduit ensuite, parfois avec une simplification sans doute un peu rapide, en affrontement de la liberté des cités contre un monde de l'Asie dominé par un empire régnant sur des sujets soumis, ou alors en opposition entre l'Europe et l'Asie, en opposition aussi, pour reprendre les termes de Dominique tout à l'heure, entre le monde de la civilisation et le monde des barbares, puisque les Perses étaient des barbares parmi d'autres, d'ailleurs, les barbares étant tous ceux qui ne parlaient pas le grec et qui ne participaient pas à cette koinée, à cette communauté, n'est-ce pas, qui se retrouvait lors des grandes célébrations panhelléniques.
Merci Philippe Conrad, comme d'habitude, en quelques minutes, on avait brossé un tableau synthétique, particulièrement complet. Merci.
Je renvoie à l'excellent article d'Emma de Mester qui est paru dans la
Nouvelle Revue d'Histoire.
pour que nos auditeurs
alors je me tourne vers la question. Je me tourne maintenant vers notre invité. Alors Jacques Népot, je vais te vouvoyer à l'antenne, ça se fait mieux. Bon, nous soyons camarades de d'université. Alors Jacques Népot, vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'Asie, plus particulièrement de l'Indochine, et directeur de la revue Péninsule, qui est consacrée à l'Indochine. Et vous êtes spécialiste remarqué de toutes ces questions extrême-orientales. Alors, Jacques Népot, on va vous mettre un peu sur le grill, là, maintenant, pendant l'heure qui reste, car parmi tous les chocs de civilisation qui sont traités dans la nouvelle revue d'histoire, l'un est particulièrement intéressant, m'a particulièrement passionné, c'est celui des conquêtes mongoles, qui est un sujet sur lequel l'on a dit beaucoup de choses, qui est un sujet qui est très mal connu, et c'est un sujet qui a eu des conséquences considérables, ne serait-ce que par certaines bouleversements de population d'une partie de l'Europe centrale et orientale. Alors, avant de parler directement de ce choc de civilisation, j'aimerais que vous nous brossiez un tableau sur le contexte géographique et historique de l'Eurasie au XIIe siècle. Au moment où vont se produire ces événements.
Si vous le permettez, je voudrais rebondir sur l'intervention précédente et fournir quelques éléments de réflexion sur ces histoires de guerre médique dont vous avez déclaré à juste titre que c'était un élément fondateur de notre culture occidentale. C'est un élément fondateur, je dirais, qui nous a empoisonné notre lecture de notre propre histoire pour une raison très simple, c'est que dans le rapport entre les Grecs et les Perses, j'ai plutôt tendance à penser que c'est les Grecs qui sont les barbares, alors que l'Empire perse avait mis au point cette formule extraordinaire sur laquelle nous vivons et dont vous allez voir l'héritage, c'est pour ça que je fais cet excursus avec les Mongols, il avait mis au point l'Empire perse, cette chose d'une nouveauté tout à fait exceptionnelle qui était la notion d'empire, à savoir qu'on pouvait créer une communauté politique sur une base autre que la base, qu'une base strictement ethnique ou nationale, puisque l'Empire perse était un empire polyethnique.
Dominique Vénère, bondi.
Vous me permettrez de faire la remarque suivante. La cité grecque était également une grande nouveauté historique. Et c'est un modèle unique en son genre, et qui vaut celui de l'Empire.
Sans aucun doute, c'était quelque chose de tout à fait novateur, mais je pense que la cité grecque restait inscrite à l'intérieur de son terroir, et que si nous avons adopté le modèle de la cité grecque, et si on continue à nous casser les pieds avec le modèle de la démocratie athénienne, et ainsi de suite, ça a certainement été un très bon moteur pour les Grecs et pour les Athéniens, puisque ça leur a permis dans la pratique de mettre au pas toutes les autres cités grecques. En réalité, je pense que ça nous a fait régresser, et il nous faudra des siècles en Occident pour arriver à redécouvrir la fonction impériale, cette nouveauté de la fonction impériale, et précisément, il faudra que les Grecs aillent l'appliquer aux Perses avec Alexandre le Grand. Et à partir de cela, va pouvoir s'enclencher notre histoire occidentale avec la notion d'Empire romain et ainsi de suite.
Bien, Jacques, mais ceci est fort intéressant.
Si vous me permettez, c'est en effet,
oui,
c'est un formidable débat.
C'est stimulant.
Ah oui, tout à fait.
Il faut rouvrir ce débat.
C'est un formidable débat. Je souhaiterais beaucoup que l'on puisse, en effet, l'ouvrir. Alors, ce soir, ce sera sans doute difficile de le développer, mais c'est un très beau débat. Et je suis partant pour, entre autres,
Ah oui, nous sommes partants.
Pour y participer.
Parfait.
Bien volontiers.
Bon, bien. Alors, Jacques, sur la longue durée des grands espaces nous prépare le chemin au steppe de l'Asie centrale. Voilà. Alors, 12e siècle, quelle est la situation de l'Eurasie au moment où vont débuter ces grands mouvements, au moment où se déroulent ces grands mouvements?
Alors, pour comprendre la situation de l'Eurasie à ce moment-là, et pour comprendre tout l'apport des Mongols, même si ça a été des apports paradoxaux d'une certaine façon, ça a surtout été des apports de pyramides de tête dans certains coins. Pour comprendre l'apport des Mongols, il faut replacer replacer le contexte dans une lecture géopolitique, parce que je crois que si effectivement les civilisations sont, comme vous le disiez, des personnes morales qui durent, c'est parce qu'elles s'inscrivent dans des logiques géopolitiques qui, elles, ne changent pas. Comme le disait ce grand criminel de guerre qui était Napoléon, en histoire, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est la géographie. Alors, quelle est la situation du point de vue géographique, du point de vue géohistorique de l'Eurasie ? Vous avez quelques grandes masses, on va dire, de civilisations qui sont à la périphérie de, qui sont à la périphérie de l'Eurasie, le monde chrétien globalement, un monde musulman turc sur le Proche-Orient, un monde indien divisé en diverses principautés et royaumes, enfin le monde de l'Asie du Sud-Est lui également divisé en principautés, et la Chine des Song à l'autre bout. Et ce sont des puissances, l'équilibre de la zone de l'Eurasie se fait par le relais de ces grands ensembles géopolitiques par la mer. Et entre d'un bout à l'autre de ces espaces tournés vers la mer, vous avez la fameuse route de la soie, les routes d'Asie centrale, qui sont où s'effectue un certain petit commerce, mais qui n'est pas très efficace puisque l'essentiel du commerce se fait par la mer, qui est divisé en une série de petites principautés segmentées, tout à fait intéressantes sur le plan historique, puisque circulent le long de cette route de la soie pas tellement des marchandises, ou encore qu'il y en ait quelques-unes, mais circulent surtout les idées. C'est pour ça que vous avez en particulier ces fameuses chrétientés nestoriennes que l'on retrouve encore en Irak, qui avaient constitué des évêchés jusqu'à dans la région de Pékin. Vous avez donc une circulation, non pas tant des hommes, mais des idées, des esthétiques le long de cette route de la soie, même si ce qui circule est relativement secondaire au regard des masses de pouvoir.
Alors peut-on parler d'une civilisation des steppes ?
Alors bien évidemment, si les Mongols ont réussi ce fantastique empire, puisque ça a quasiment été les Nations Unies, l'empire mongol de l'époque, c'est qu'ils se sont appuyés sur une formule de civilisation, une formule de civilisation que nous tendons à ignorer en Occident, puisque nous vivons ça à travers nos propres concepts historiques. Et puis la civilisation des steppes, pour nous, c'est horrible, c'est les Huns, c'est les Magyars, c'est tous ces gens qui viennent percer les limesses et nous faire des misères à l'intérieur de nos civilisations agraires. En réalité, on a une civilisation remarquablement brillante, en tout cas très adaptée à son terrain, qui est cette civilisation des steppes, qui s'est mise au point, on va dire, pendant plusieurs millénaires, mais qui s'est élaborée aux alentours, on va dire, de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Quelle est cette civilisation des steppes ? Ce sont des gens qui ont appris à constituer une communauté politique sur la base d'une technique très particulière qui est le nomadisme cavalier. Et ces gens mettent sur pied, les gens de la steppe mettent sur pied le nomadisme cavalier. Et pour comprendre, pour donner en termes contemporains, ces pasteurs nomades, ce sont des gens qui disposent des divisions blindées. Parce que le cheval, c'est le char d'assaut de l'époque. Et quand vous avez le cheval, vous pouvez vous balader d'un bout à l'autre de l'Eurasie, de la région de Pékin jusqu'en Hongrie actuelle, et vous avez en gestation là-dedans les possibilités de créer des grands empires de la steppe. On en a eu, j'évoquais l'empire des Huns, on pourrait évoquer l'empire des Khazars, les empires Magyars, etc., les empires Bulgares. Il y a toujours eu des empires à l'intérieur de cette Eurasie, mais on s'en occupe pas tellement. Nous, on voit simplement apparaître des hordes barbares. Ce qui est bien évidemment une vision des steppes, de gens agraires qui ont une culture de l'écrit. Alors que ces gens ont une vision mobile et une vision orale de la transmission des biens. Et c'est cette vision, cette culture de la steppe, et on va retomber sur nos fameux Perses, c'est cette culture de la steppe, le jour où les Indo-Européens, qui étaient au départ des gens de la steppe, tous les gens d'Ukraine, hein, on va,
et qui c'est pour ça qu'on a des langues indo-européennes qui se sont baladées d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre de l'Asie. Le jour où ces gens de ces indo-européens des steppes débouchent sur le plateau iranien et viennent s'insérer dans les civilisations agraires entre le monde de la Mésopotamie, pour simplifier, et le monde de l'Indus, civilisation d'Harappa, etc., ils arrivent avec leur propre idéologie, qu'ils ont récupérée dans le monde de la steppe. Ils récupèrent le bénéfice des sociétés agraires et fabriquent ce concept dont on parlait au départ, qui est ce concept de l'empire, et qui vont faire cet empire dont nous sommes, d'une façon ou d'une autre, les héritiers, qui est l'empire achéménide. Voilà, et c'est exactement une opération de cet ordre-là que vont faire les Mongols.
Alors, ces Mongols, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Comment apparaissent-ils ?
Alors, ces Mongols, ce sont... dans cette Asie des steppes, vous avez des stocks ethniques, des stocks linguistiques extrêmement divers, parce que vous comprenez bien que les gens ont passé leur temps à se promener. Les Turcs viennent de là, par exemple. C'est Turc qu'il est question d'intégrer à notre Europe. Les Turcs viennent de là, mais il y a eu plein d'autres populations. Les Bulgares de Bulgarie, dont les Bulgares actuellement sont les descendants, viennent de ces régions-là. Ils ont été un peu slavisés, mais ils viennent de ces régions-là. Bref, à l'intérieur de cette Eurasie, vous avez une multiplicité de tribus qui sont là, et cycliquement, ces tribus, vous avez des chefs de clans qui réussissent à coordonner des espaces, à coordonner des groupes tribaux. Et vous avez le plus arriéré, on peut dire, de ces groupes, parce que c'est toujours les plus arriérés qui sont les moteurs de l'histoire. Ne faisons pas d'allusion à des phénomènes plus contemporains, c'est toujours les groupes les plus primaires qui, le moment venu, sont les groupes moteurs. Vous avez un groupe assez primaire qui est une tribu perdue dans le duo du Haut-Kéroulène, c'est-à-dire la Mongolie, on va dire la Mongolie de l'Est de nos jours, qui, via une lignée de chefs assez dynamique, qui aboutit à un certain Gengis Khan, qui réussit, lui, à... qui est un type qui doit avoir un certain charisme assez extraordinaire, qui n'a pas du tout le type... Nous, on a cette mythologie, on pense que ce sont des jaunes avec des gens aux yeux bridés. Pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un type comme Gengis Khan avait les yeux gris, par exemple. Bon, qui réussit à mettre sur pied un appareil tribal extraordinaire, et il va, en une génération, en quelques dizaines d'années de chevauchée, il va réussir à faire l'unité de la steppe. L'unité de la steppe depuis la région de la Chine du Nord, depuis Pékin, jusqu'à l'Ukraine. Et une fois qu'il aura fait cette unité de la steppe, de cet ensemble géopolitique qui continue à exister, qui vient actuellement de se fragmenter à la suite de la division de l'Empire soviétique, mais qui était latent à travers l'opération soviétique. Une fois que ce monde de la steppe est constitué dans cette unité, alors on passe au deuxième temps de l'Empire mongol, avec ses vassaux, ses fils, etc. Ils font la conquête des sociétés agraires de la périphérie. Alors ils vont casser les Russes, ils vont casser les groupes musulmans, ils vont casser les gens d'Inde du Nord, et ainsi de suite. Et ils vont constituer cet immense empire mondial qui peut s'analyser comme le cœur géopolitique, la steppe, plus les succursales agraires de la périphérie de la steppe.
Pouvez-vous insister sur les étapes de cette constitution ?
Ça a été extrêmement rapide. Il a fait du temps de sa propre vie, Gengis Khan, il a constitué l'unité de la steppe, on va dire en gros entre... Je vais vous dire de façon extrêmement simple, on va dire entre 1230 et 1250. Puis ce sont ses fils qui se lancent à l'assaut et on va dire qu'entre 1280 et 1320, l'opération est faite. Ils ont pris le contrôle de toutes les états agraires. Et ensuite, dernière phase de l'empire, ce que nous connaissons bien dans toutes les entreprises coloniales, eh bien, les troupes coloniales, à savoir les Mongols, se dissolvent dans les populations qu'ils ont occupées. Et l'Empire se casse.
Dominique Venner.
Et quels sont les obstacles que les Mongols ont pu rencontrer dans leur expansion et dans leur conquête?
Alors, ils ont deux obstacles principaux. Le premier obstacle, je vous disais que les chevaux, c'était l'arme blindée. L'arme blindée, ça marche avec du pétrole. Quand vous n'avez pas de pétrole, les armées blindées s'arrêtent. Quand vous n'avez plus de pâturage, la cavalerie peut plus marcher. Donc, il y a eu un premier obstacle qu'ont connu les Mongols. C'est pour ça qu'ils ont fait ces destructions ahurissantes. C'est qu'il fallait, eux, qu'ils transforment à toute force, parce que c'est la condition de leur survie, il fallait qu'ils transforment les terres agraires en prairies. Donc, quand ils prenaient une société agraire, ils démolissaient les réseaux hydrauliques, ils démolissaient les villes pour transformer tout ça en pâturage. Parce que quand il n'y avait pas de pâturage, tant qu'il y avait des pâturages, ils pouvaient avancer, plus de pâturage, plus d'armée mongole. Donc, première chose, il y avait la limite de leur technique militaire. Et deuxième chose, plus vous engrangez, et c'est pas une société comme une vieille société impériale comme la France qui ne le comprendra pas, plus vous intégrer des populations différentes, plus vous prenez en charge des sociétés agraires, plus vous vous trouvez devant des problèmes techniques compliqués et vous devez avoir recours à un fonctionnariat, à des gens qui du cru qui encadrent les populations locales. Donc vous devez partager le pouvoir avec des gens qui ne sont pas de votre culture et qui sont surtout pas de votre univers mental. Et faisant ça, en réalité, vous vous appauvrissez, puisque vous êtes obligé, d'une façon ou d'une autre, de vous mettre, quand vous êtes mongol, de vous mettre à l'école des Chinois, à l'école des Perses, à l'école des Indiens, à l'école des Russes, etc. Ou à l'école des Italiens, d'où Marco Polo. C'est pour ça que le moment venu, on récupère les marchands comme Marco Polo, dans le cadre de l'Empire mongol, et qui assure un certain nombre de fonctions. Parce que c'est pas dans la culture des Mongols de faire ça.
Alors cette expansion mongole est connu par l'imagerie populaire comme une période de terreur absolue. Est-ce exact ou est-ce une légende?
Vous comprenez, parler de terreur, je trouve que là je vais encore soulever des soulever peut-être, on va trouver que je manie le paradoxe. Bon, les Mongols, ils ont pratiqué leur terreur de Mongols, mais je vous entendais, vous évoquiez l'esclavage ou d'autres choses. Je veux dire, chaque société pratique sa forme de terreur et sa forme de destruction. Il n'y a pas si longtemps, on a trouvé très légitime de balancer des bombes atomiques sur les Japonais. Bon, après tout, est-ce qu'il vaut mieux couper les têtes ou est-ce qu'il vaut mieux rasier des villes, les capitales japonaises? Pour les bombardements en Occident, on sait très bien ce que ça a été que les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était pas triste non plus. Alors,
ça nous marque. Les têtes coupées permettent de faire de belles pyramides.
Voilà, ça permet de faire de belles pyramides. Mais enfin, après tout, on a fait suffisamment d'horreur, nous, en Occident, pour pouvoir absoudre les Mongols.
Alors une question tout à fait intéressante, lorsqu'on étudie l'histoire de la Méditerranée orientale, l'histoire de la croisade, l'on voit que dans la phase finale de la croisade, certains, notamment Saint-Louis, même le pape, ont cru voir dans les Mongols des alliés, d'où les expéditions de Piancarpino et de Rubruck, etc. On cru voir des alliés. Alors, ça, contre l'islam, c'était un échec complet. Mais pourquoi ce jeu de dupes? Et pourquoi, comment le rôle des Mongols va-t-il au contraire favoriser l'islamisation?
Pour une chose simple, je vous évoquais au début cette culture de la route de la soie, en particulier avec la diffusion du christianisme nestorien. Alors qu'il y a des clans mongols qui étaient chrétiens, entre guillemets. Et ça a fait naître un certain nombre de spéculations, comme quoi on pourrait, vous savez, on n'a pas changé hein, en Occident, qu'on pourrait christianiser les Mongols. Or, on a fait ça dans toutes nos colonies, dans toutes nos expansions, on s'est toujours imaginé qu'on allait pouvoir christianiser les populations. Donc on a eu cette hypothèse, cette erreur de diagnostic de départ, qu'on allait pouvoir récupérer des alliés chrétiens par ce biais. Et on a fait une deuxième erreur, comme en réalité le combat de l'islam que nous avions à cette époque-là, c'était pas un combat contre les Arabes, parce que les Arabes avaient été conquis par une vague déjà venue de la steppe qui était les Turcs. On se battait contre les Turcs, pour schématiser. On se battait, la croisade, c'est une croisade qui a été faite, les mouvements des croisades, en réalité, contre les Turcs ou les alliés des Turcs, pour, je simplifie à très gros traits. Et comme les Mongols étaient sur l'arrière des Turcs, on s'est simplement pensé qu'on avait un allié de revers contre les Turcs. Bien évidemment, c'était une complète erreur, parce que les Mongols, eux, avaient leur grande idéologie qui leur avait permis de constituer leur empire, à savoir qu'ils avaient une conscience, ils ont une religion, on va dire, monothéiste, qui est le culte du ciel, je simplifie, un modèle impérial universel, donc ils voulaient bien avoir des rapports avec les Occidentaux, à condition, et avec les chrétiens, à condition que les chrétiens et que les Occidentaux rentrent à leur place dans la pyramide impériale mongole. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est très clair. Les écrits de Rubruck et Piancarpino sont très clairs en disant « Oui, je veux bien m'allier avec vous, mais à condition que vous reconnaissiez la suzeraineté du grand Khan. »
Voilà, c'est tout. C'est pour eux, c'est tout. Mais pour eux, ça n'existait pas, l'Occident, pour les Mongols. C'était la planète Mars de l'époque.
Et la steppe non plus pour les Occidentaux. Quand Guillaume de Rubruck dit « La steppe est vaste », ça veut tout dire, des jours de marche, et les relations qui les établissent avec les Mongols, donc l'échec complet de l'alliance mongole, et cette alliance de revers qui ne se fait pas, mais qui au contraire va dans une très large mesure favoriser l'islamisation, puisque les Mongols qui vont être en Méditerranée orientale vont s'islamiser.
Bien sûr, les groupes mongols vont se couper schématiquement, ils vont se couper en les troupes mongoles vont se couper en deux catégories, ceux de l'Est vont se siniser. Ceux de l'Ouest, ils vont pratiquer la religion dominante dans la région, ils vont s'islamiser. Et ce que nous avons imaginé, ce que nous avons vécu de la menace mongole et de ses héritiers, de son héritage, nous l'avons passé en termes musulmans. D'où les histoires avec Tamerlan, ainsi de suite, qui sont les héritiers musulmans de la formule mongole.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquetch, dirigé ce soir par Bernard Lugan, avec Philippe Conrad, Dominique Vénère et Victoria. Nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Népot, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l'Asie. Avec lui, nous parlons de l'expansion mongole, thème traité abondamment par lui-même et par d'autres historiens dans le numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire qui vient de paraître. Question d'auditeur à propos de la musique. Oui, cette musique que je vous passe, eh bien, est une musique... C'est une musique gaélique, c'est une musique du Pays de Galles. Ce sont des chants et des musiques du Pays de Galles. On me demande les références, c'est inutile, c'est un disque qui ne se trouve pas en France. Donc c'est un disque édité au Pays de Galles. Mais chers auditeurs, si vous êtes intéressés, je vais vous donner l'adresse d'une maison spécialisée dans les distributions de musique gaélique. C'est à Quimper. Rue Graillon, ça s'appelle Celtic Distribution, et ils sont spécialisés dans ce genre de disques, de musique de tout le monde celte. C'est une très belle musique que nous repasserons d'ailleurs. Oui, Dominique.
Question à Jacques Népot. Avons-nous connaissance d'une musique mongole?
Oui.
Ah oui, la musique mongole, c'est joli, c'est agréable, la musique mongole. Bon, je suis pas spécialiste de musique mongole, mais il y a effectivement.
L'art culinaire mongol, un art très rare de cavalier,
Oui, je dois vous dire que mes visites en Mongolie ne m'ont pas laissé de souvenirs culinaires impérissables.
Le lait de jument cailleux. Ah, d'ailleurs, une question d'auditeur qui s'insurge et qui s'insurge contre ce qu'a dit Jacques Népot.
La diatribe anti-hellénique de votre invité est surprenante et consternante. Est-ce la version d'extrême droite de l'autodénigrement et de l'autoflagellation anti-occidentale?
Jacques Népot.
Alors, je crois que je vais mettre, non pas des bémols, mais que je vais expliciter ma pensée. J'ai la plus profonde admiration pour la culture grecque. Nous sommes tous des Grecs. Et si je m'identifie à quelque chose, je m'identifie beaucoup moins comme Français que comme Grec. La philosophie grecque, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pense grec, les concepts ont été fabriqués par les Grecs. Et notre héritage chrétien est l'héritage direct de la civilisation grecque. Cela dit, c'est pas parce que nous admirons la culture grecque que nous savons voir que l'esthétique mise au point par les Grecs est celle qui a complètement fécondé en particulier toute l'Asie, puisque la sculpture indienne comme la sculpture chinoise sont des dérivés de la sculpture grecque, par exemple, et qu'on retrouve des adaptations de monuments grecs jusqu'au fin fond du Vietnam. Ça ne nous empêche pas, le moment venu, de lire avec esprit critique ce que nous ont légué nos ascendants grecs. Ils nous ont peut-être légué de très belles choses. Ils nous ont aussi légué ces monuments de propagande sur lesquels nous vivons, que sont les guerres médiques. Et d'admirer les Périclès ou Phidias n'empêche pas de se dire qu'ils avaient un bon service de propagande de l'époque, et qu'après tout ça s'est certainement pas passé comme ils l'ont dit.
Voilà.
Parce que si les empereurs achéménides avaient voulu faire faire marcher la boîte à claques, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de Grèce. Parce qu'ils auraient transporté quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de gens, et ils auraient pratiqué la politique de la terre brûlée, et ça aurait été terminé, les Grecs. Simplement, ils ont négocié la tranquillité des Grecs. Voilà.
Le
camp mongol Argun n'envoya pas moins de 4 ambassades au prince d'Occident, proposant son concours pour libérer Jérusalem en 1291. Hélas, les chrétiens, tant en Europe qu'au Levant, ne répondirent pas à cet appel contre l'islam.
Vous savez, ils avaient aussi des services diplomatiques et des services de renseignement. Simplement, après tout, ils vont jouer cette carte comme ils en ont joué une autre, parce que il est certain que l'apport des Occidentaux, en particulier du côté des puissances maritimes, n'était pas négligeable pour les Mongols. Enfin, je veux dire, c'était une goutte d'eau dans la mer.
Philippe Conrad.
Et il faut préciser aussi que dans le domaine musulman, ils se sont heurtés à une résistance inattendue et forte au niveau des Mamelouks égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ont affaibli le monde de l'islam. Bon, moi, c'est la mise à sac de Bagdad par Oulagou. Mais en même temps, ils sont tombés sur un os en Syrie face aux Mamelouks. Mmh. Et ce sont ces mêmes Mamelouks qui prendront Saint-Jean d'Acre, qui mettront fin au royaume, aux états chrétiens.
Qui sont des Turcs, tous ces gens-là.
Bien sûr.
Oui, nos frères européens, c'est ça.
Ah, voilà, nos frères européens.
Ceux qui vont rentrer en Europe avec la bénédiction de nos gouvernants. Bien, alors
je vous demande aussi, est-ce que les Mongols avaient un projet culturel en même temps que leur désir d'expansion, comme Alexandre souhaitait répandre une certaine culture par ses conquêtes?
Oh, ben, c'était pas compliqué. Les Mongols, ils voulaient faire l'union du monde. C'est aussi simple que ça. Ils étaient persuadés qu'ils allaient faire un immense empire mongol. Avec des chevaux partout.
C'est pas mal, ça.
Et avec, vous savez, il y a qu'à se promener dans le bois de Boulogne le dimanche matin pour voir que le mythe du cheval continue à fonctionner dans notre bourgeoisie occidentale, alors que le thème de la cavalerie étant quand même obsolète depuis le 12e ou le 13e siècle. Comme ça, il y a des rémanences culturelles à travers les générations.
Philippe Conrad, pouvez-vous nous dire quel était le type morphologique des Perses?
des Perses de l'Antiquité à l'époque achéménide. Ben, vous savez, les Perses de cette époque-là, ce sont des gens qui appartiennent à l'espace indo-européen. Alors, il y a de tout dans l'Empire perse. Hein. Il y a à la fois les gens du Fars, là, les Perses proprement dit, et puis il y a les Mèdes, et puis il y a un certain nombre d'autres populations, davantage les Sogdiens en direction de l'Inde, et avec des types d'ailleurs assez différents, puisqu'on les retrouve sur la grande frise de Persépolis, où on voit tous les peuples là, qui viennent apporter au grand roi leurs offrandes. Donc, je crois qu'il n'y avait pas de type morphologique unique dans cet immense empire achéménide qui était une addition de diversité, comme l'a bien dit notre invité.
Et quelles étaient les origines d'Attila? Je ne crois pas qu'elles étaient mongoles.
Attila, c'est pas un mongol, c'est un c'est un turc, ça appartient à la famille turque.
Encore un parent européen.
Mais Attila était très civilisé, hein, il s'habillait en prince romain, il avait une chancellerie de type romain mais nous avons une vision en Occident, une vision extrêmement provinciale de notre histoire. Et j'ai de temps en temps, quand je lis les historiens occidentaux, j'ai l'impression de me retrouver avec des cousins de province qui connaissent tout sur les vieilles rues de Rennes ou de Clermont-Ferrand. Voilà.
Mais c'est tout à fait la définition d'une grande partie de l'université française.
Mon cher
collègue, ils vont en crever. Nous qui travaillons avec les universitaires étrangers, moi avec les universitaires anglo-saxons et vous avec les universitaires d'Extrême-Orient, constatez que l'université française, c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde mental. Et l'Albanie est une Albanie post-marxiste égarée. Ils vont crever. Comme les intermittents du spectacle, comme les grévistes de l'enseignement. Ça, c'est la grande vague de l'histoire en train de balayer tout cela. C'est cramponné sur comme à des bouées percées à leurs avantages acquis, à leurs certitudes intellectuelles. Ils vont crever et nous nous réjouissons.
C'est un petit peu ce qui était sous-jacent dans ma relecture qui, par bien que des côtés, peut apparaître provocante, mais qui n'est pas fausse de ces grandes phases de l'histoire eurasiatique.
Alors revenons à nos Mongols. Cet empire mongol, cet empire de la steppe, et la steppe est vaste, comme disait Guillaume de Rubruck, la steppe asiatique. Alors comment cet empire fonctionne-t-il? Comment est-il géré?
Alors il est géré comme l'étaient gérés tous ces empires de la steppe, à savoir des capitales itinérantes, enfin pas des capitales, des camps itinérants au gré des pâturages. Alors quand vous allez par exemple à Karakorum de nos jours, qui a été le siège de l'empire, des grands empires mongols pendant on va dire des siècles voire des millénaires, ou des empires pré-mongols, Karakorum, vous avez rien, c'est une immense prairie entre des plus ou moins arrosés, mais c'est ce qu'il faut pour faire vivre. Donc là-dedans vous avez comme de nos jours, Oulan-Bator est une collection de yurts. Il y a quelques monuments néo-soviétiques qui sont là, mais c'est une collection de yurts. Mais ça n'empêche pas de fonctionner. Simplement, vous avez un mode itinérant avec des coursiers, avec un système de relais, avec des gens qui sont capables, qui ont toujours, chaque Mongol a en permanence 3 chevaux avec lui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui court, et il y en a qui se repose, et il y en a qui se nourrissent. Donc, ils peuvent pratiquer des courses des plusieurs dizaines de kilomètres par jour, et avec ces échanges constants, avec un système de poste, vous arrivez à faire tenir un empire. Alors tout ça a bien marché, le jour jusqu'au jour, et puis vous avez, on va dire, des relais postaux, et vous avez des avant-gardes qui sont représentées par les fils ou par les généraux, et on réussit à faire une espèce de maillage extrêmement souple qui fait tourner l'Empire mongol. Et pour l'écriture, on emploie ces gens, je vous disais, des sociétés qui possèdent les écritures, des Sogdiens. C'est pour ça, par exemple, que l'écriture mongole est dérivée de l'écriture mandchou par derrière, sont dérivées des écritures sogdiennes, qui sont des écritures, des écritures du Moyen-Orient, hein, pour simplifier. Alors on utilise des scribes qui manipulent l'écrit et qui manipulent la communication écrite et manipulent quelques archives. Pour le reste, ça se fait par oral et ça se fait par consensus du groupe, avec rôle prédominant d'ailleurs des impératrices mères. Alors tout ça fonctionne très bien jusqu'au jour où, ce qui s'est passé avec Kublai Khan, on est obligé de s'installer, pour des raisons matérielles, de s'installer dans une ville à Pékin. Alors là, c'est fini. Le système est disloqué.
Et comment connaît-on l'histoire des Mongols avant la sédentarisation? Il n'y a pas d'archives, traditions orales, archéologie?
Il y a tradition orale, archéologie, puis il y a les voisins qui ont écrit. Il y a les sources il y a les sources chinoises, vous avez les sources arabes, vous avez pendant tout le... Parce qu'on comprend que dans notre Occident, on ne s'intéresse pas. On parlait de la culture grecque. Là, je vais faire un petit couplet. La culture grecque, alors c'est Échille et c'est les guerres médiques, etc. Et on ne sort pas de ça en ignorant totalement que les Grecs se sont baladés partout. Par exemple, vous avez un texte comme le périple de la mer Érythrée. Le périple de la mer Érythrée. La civilisation grecque, vous aviez des villes, des quartiers grecs, au moins jusqu'au centre. Mais ah ça, oui, personne ne s'intéresse à ça.
Sur la côte de Malabar.
Personne ne s'intéresse à ces choses-là. Et on ne s'est pas intéressé au fait qu'il y a eu des expéditions grecques, il y a eu des voyageurs, il y a eu des géographes qui se sont baladés à travers l'Asie centrale, qui faisaient des rapports. Mais ça, il y a quelques farfelus orientalistes qui s'occupent de ça, mais pas la culture officielle, on va dire. Voilà.
On retombe toujours au même problème.
On retombe toujours là-dedans.
Bon, écoutez, les anglo-saxons le font, puisque les Français ne le font pas. Alors, donc cet empire disparaît. Alors comment disparaît-il? Bon, vous avez donné un exemple avec la sédentarisation à Pékin, mais ailleurs.
Alors, c'est la même chose, ils se sont sédentarisés un petit peu partout, dans toutes les capitales des États, les capitales persanes, les capitales les capitales d'Europe, de Russie du Sud, ils se sont sédentarisés dans ces endroits-là, et puis... Vous pouvez, autant c'est facile de faire une conquête brutale quand vous arrivez avec des combattants, mais pour le gérer, ça c'est pas possible. Alors, vos troupes se délitent, votre discipline disparaît d'une façon ou d'une autre, et les populations locales, qui elles sont sur place, connaissent leur écologie, se constituent des mouvements de libération pour prendre un terme, et vous avez des révoltes locales et qui chassent les groupes mongols. En Chine, ça a été la dynastie des Ming. Les paysans Ming ont chassé les Mongols. Et petit à petit, l'espace politique mongol s'est trouvé recentré sur l'Asie centrale. Et là, on va dire que les groupes qui avaient été virés, qui avaient pris la tête de la conquête, et qui avaient été virés de la conquête, ils se sont heurtés localement aux gens qui n'avaient pas suivi l'épopée impériale et qui, eux, prétendaient ne pas se faire dicter leur conduite par les gens qui avaient quitté la Mongolie. Et vous avez eu l'émergence d'un certain nombre d'empires mongols, l'empire des Oïrates en particulier, qui ont prétendu gérer à leur profit cet empire mongol réduit. Et les Mongols sont partis dans une série de guerres civiles entre eux, jusqu'au moment où ils se sont fait asservir de nouveau par les gens des bornes, par les Russes d'un côté, quand les Russes ont récupéré leur autonomie, et de l'autre côté par les Chinois, et le jour où les Chinois ont été conquis par d'autres barbares, les Manchous. Et ils ont quasiment anéanti les populations mongoles. C'est pour ça qu'ils ne représentent plus rien. Il y a quelques millions de Mongols maintenant, de nos jours.
Mais ils ont toujours été un nombre tout à fait réduit dans les masses démographiques de l'Asie.
Bien sûr, ils ont toujours été des populations, mais parce qu'ils ont perdu...
Ils ont perdu leur élan vital.
Mais surtout, ils se sont fondus dans les populations locales. Vous prenez les Hazaras, par exemple, en Afghanistan. Tout le cœur de l'Afghanistan est peuplé de populations, on va dire, mongoles. Vous avez encore des groupes mongols dans le Yunnan. Des gens qui parlent plus ou moins, paraît-il, encore des langues mongoles. Mais les gens, ils se sont retrouvés retrouvés noyés dans la masse des populations qu'ils avaient conquis.
C'est intéressant, vous parliez des périphéries qui finalement étaient des marches et qui en fait ont été des zones d'échec pour les Mongols.
Bien évidemment.
Et on voit dans toutes ces périphériques, après le passage de la vague mongole, renaître les vieilles civilisations en Iran, un peu en Chine.
En Chine, en Indochine. Quand vous pensez qu'il y a des groupes mongols qui sont allés jusqu'à Java, faut quand même le faire.
Et qui ont traversé.
Qui ont pris la mer, qui sont allés à Java. Alors, à chaque fois, vous savez, quand vous arrivez, et on en a une très bonne illustration de nos jours avec le problème de l'islam, on s'imagine toujours qu'on a les clés des gens qu'on considère comme ses adversaires, et on avance ce qu'ont fait par exemple les Américains en Irak, et puis vous vous retombez dans des galères locales absolument pas possibles parce que vous avez des rivalités de clans et vous êtes manipulé par un clan qui essaie de vous récupérer contre notre clan. C'est ce qui est arrivé aux Mongols partout dans les marges de leur empire.
C'est le problème des conquérants.
C'est le problème des conquérants.
Qui laissent des survivants. La seule bonne conquête est une conquête qui ne laisse pas de survivants.
Voilà. C'est une...
Donc la conquête à l'africaine, c'est-à-dire...
À la Zoulou.
D'ailleurs, on tue les hommes et on engrosse les femmes pour qu'elles donnent naissance à des petits Zoulous. C'est comme ça que l'Empire Zoulou s'est fait en vidant l'ensemble d'une région. Et là, il n'y a pas de vengeance, effectivement. Plus personne ne peut se venger.
Vous savez que d'une certaine façon, c'est ce qu'avaient fait aussi les Portugais. Quand les Portugais, pourquoi l'Empire portugais, qui a été le premier constitué, a été le dernier à tenir le coup? Parce que les Portugais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Effectivement, ils engageaient les hommes dans leurs troupes et ils épousaient des filles locales. Mmh. Et comme on le disait à Macao, la différence entre les Chinois et les Portugais, c'est que les Portugais sont des Chinois qui portent la culotte. Voilà, c'est tout.
Dominique Vénère voulait poser une question à Jacques Nipote.
Oui. Les Mongols ont été absorbés par leur conquête, dans une large mesure. Et après la disparition de l'Empire mongol, 14e siècle, que reste-t-il? Ont-ils eu une influence sous une forme ou sous une autre qui a perduré? Quelles sont les suites après la disparition de l'Empire mongol? Quelles sont les suites de leur conquête, s'il y en a?
Alors, les suites de leur conquête, rien, des destructions, faire un peu circuler les idées, mais surtout, ce qu'ils ont fait, selon la politique du domino, ils ont fait tomber des dominos qui ont fait tomber des dominos. Un exemple très simple, ces Mongols qui se sont turquisés ont créé d'autres populations mixtes, en particulier en Asie centrale, qui à leur tour sont descendus sur l'Inde, ont fait la conquête de l'Inde, et donc faisant la conquête de l'Inde, ils ont non pas éradiqué, mais ils ont cassé les royaumes hindouistes. Cassant les royaumes hindouistes, ils ont coupé les contacts entre l'Inde et ce qu'on appelle l'Inde transgangétique, l'Asie du Sud-Est qui était indianisée, et les populations d'Asie du Sud-Est qui étaient indianisées, qui allaient se former, qui envoyaient leurs étudiants pour schématiser, se former aux Indes à la culture sanscrite, étant désormais coupées de leur base indienne hindouiste, alors elles ont divergé de deux façons. Les uns, qui ont été les gens de péninsulade chinoise, se sont convertis à une forme aberrante d'hindouisme, là je vais me faire arracher les yeux par les bouddhistes, mais qui a été le bouddhisme du petit véhicule, et les autres, ceux qui étaient du côté de l'archipel et qui étaient les plus en relation maritime pour des raisons commerciales à travers l'océan Indien avec les gens d'Inde et du Proche-Orient, ils se sont convertis à l'islam. Et ça vous a islamisé par contre-coup l'archipel indonésien. Bon, islam très entre guillemets. Hein, bon.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Becquet, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Une précision d'auditeur, Victoria.
Oui, on nous dit qu'on trouve ces disques à la COP Braise, rue du Maine, à Montparnasse.
J'espère, mais ça m'étonnerait qu'on trouve The Best of the Welsh Folk Music, Garo Gwerin, Gwerin.
Doit y avoir un numéro.
Et ça a été édité par une maison au Pays de Galles. Il n'y a pas de numéro. Ben bon, bref, mes chers auditeurs, nous avons une adresse.
Rue du Maine, COP Braise, à Montparnasse.
Voilà. Des questions à propos des Mongols.
Concernant les types physiques, rappelons que Gengis Khan était roux et appartenait à un clan princier dit les yeux gris. Est-ce que les Mongols avaient une monnaie et quelle était-elle?
Mais les Mongols n'avaient pas de monnaie au sens propre, parce que c'est pas des sociétés monétarisées, c'est pas des sociétés de l'écrit, des sociétés monétarisées. Simplement, quand ils étaient dans leur société, dans les sociétés empires, ils sont poursuivis, empire agraire et monétarisé, ils poursuivaient les institutions locales. Voilà, c'est...
Pouvez-vous préciser l'apport des Mongols en architecture pour les monuments, par exemple aux Indes?
Alors ça, je pense qu'il y a une très léger télescopage historique. Les Mongols n'ont évidemment pas d'architecture au sens où on l'entend, puisque la seule architecture mongole, c'est la yourte. C'est-à-dire, c'est une architecture en clayonnage de bois et en feutre.
Et les pyramides de tête.
Voilà, et les pyramides de tête pour signaler les routes. Bon, donc il n'y a pas d'architecture mongole, et la seule architecture mongole qu'il y a maintenant, c'est une architecture qui a été empruntée aux Tibétains le jour où les Mongols, ou au terme de leurs évolutions historiques, mais relativement tardivement, se sont convertis au lamaïsme tibétain. Donc maintenant, ce qu'on vous présente comme architecture mongole, c'est soit de l'architecture tibétaine, soit alors de l'architecture chinoise, ou de l'architecture russe, si on veut. Mais il n'y a pas d'architecture, ça n'a pas de sens.
Et lorsque les Mongols se sont sédentarisés, n'ont-ils pas perdu leur âme?
Vous savez, quand on a un modèle culturel qui est construit sur une certaine pratique, une certaine technologie, une certaine idéologie, une certaine notion de l'espace, bien évidemment que vous perdez votre âme. Quand vous ne restez pas accroché aux valeurs et aux conditions qui ont fait naître votre culture, vous perdez votre âme. Aux États-Unis, on le voit bien avec les groupes indiens qui ont résisté, comme les Hopis. Ce sont ceux qui sont restés absolument mordicus, accrochés à leur terroir. Les autres, les Indiens, au Canada ou au Nord, vous les croisez, vous les reconnaissez plus. Mmh. Hein, ils n'ont plus rien de l'imaginaire.
Ils sont encore plus obèses que les Américains, on le reconnaît à ça. Air climatisé, gavé d'ice cream, il ne bouge absolument plus et il touche la manne de l'État.
J'avais un message sur une phrase prêtée à Georges Clemenceau, je peux la dire. Bon, peut-être sera-t-il temps de rappeler ces deux phrases prêtées à Georges Clemenceau. Les Américains sont le seul peuple qui soit passé directement de la barbarie à la décadence en ignorant le stade intermédiaire de la civilisation.
Oui. Pas très bien le... Ah oui, avec la définition des situations tout à l'heure. Mais très bien, c'est tout à fait intéressant. Bien, question, Jacques Népot. Victoria, vous avez terminé?
Je pourrais peut-être répondre sur les Mogols.
Oui, question sur les Mogols. Justement.
Sur l'architecture des grands Mogols. Vous aviez un de ces groupes de filiation mongole. C'est pour ça qu'on les appelait les Mogols, mais bon, qu'il n'y avait plus rien de mongol, qui était très turquisé. On finit à partir du XVIIe siècle, par faire la conquête des Indes et par créer un empire des Indes. Et là, ils ont mis au point un art extraordinaire, un art superbe, qui est l'art des grands Mogols. Mais cet art des grands Mogols, on va dire que c'est de l'art iranien adapté. Alors c'est le Taj Mahal, c'est Fatih Pur Sikri, c'est le fort de Delhi, etc.
Quelle est la différence, quel est le lien entre le terme mongol et grand mogol?
Ils revendiquaient, les grands mogols, d'avoir une filiation gengiscanide, d'avoir une filiation mongole. Mais c'est un mythe, si vous voulez, c'est comme le nombre de dynasties occidentales, comme en Occident, on prétend descendre des Priam. Hein, la dynastie française prétendait descendre des Priam.
Des Troyens.
Voilà, des Troyens, etc. C'est un mythe. Simplement, ils avaient gardé de leurs ancêtres mongols, on peut dire, et de leurs ancêtres turcs, parce que ces gens-là parlaient une langue qui était plus proche du turc, l'ourdou, etc. ils avaient gardé un sens, à la fois un sens d'une vision globale de la société, une vision impériale assez remarquable. C'est eux qui ont unifié l'Inde et des capacités militaires.
Et Ungern dans tout cela?
Le Ungern, c'est effectivement, tant qu'à rentrer dans les fantasmes, on peut évoquer le Baron Balt.
Oui, allez-y, Jacques Népote.
Alors, ce réveil surprenant
des Mongols.
Après 1918, le réveil d'un mythe mongol dans le cerveau.
Riche
et phosphorescent du Baron Balt, etc. Quand même,
c'est tout à fait étonnant. Mais vous savez, je crois qu'il faut
réintégrer. Voyons le livre de notre ami Mabir.
Voilà. Oui. Je crois qu'il faut réintégrer ça dans l'idée que fin 19e, début 20e, vous avez eu toute une série de, on va dire, d'esprits, risquons-le, de farfelus, qui ont pensé ressusciter des empires aux quatre coins du monde. Il y en a eu en Indochine avec David Ier, roi des Sedang, vous en avez eu le roi d'Araucanie, etc. Vous avez des gens qui rêvent à un moment donné, et le baron Balt, les Blancs, ont pensé qu'ils allaient pouvoir, comme ils étaient à court de troupes, et qu'ils ne parvenaient pas à résister aux bolcheviks, qu'ils allaient pouvoir ressusciter ce grand mythe de la steppe contre les communistes.
Pour lever des goums.
Voilà, pour lever des goums et pour se battre contre les sociétés agraires, puisque ce qu'avaient fait les bolcheviks, ils avaient pris le contrôle d'une société agraire. Donc ils ont pensé jouer l'alternative de la steppe. Bon, bien évidemment,
Ungern a pensé à tout cela.
Ah oui, il a pensé à tout ça, je pense. Hein, Ungern, qui n'était pas un imbécile. Bon, il était un peu fou, mais qui n'était pas un imbécile. Mais bon, cela dit, il avait 5 siècles de retard.
Oui, et les Mongols, il a quand même levé plusieurs milliers de cavaliers mongols.
Oui, bon, enfin, je veux dire, plusieurs milliers de cavaliers mongols. Vous savez, c'est comme vous connaissez la phrase, les chassepots ont fait merveille. Mm-hmm. C'est quand le comte de futur comte de Palikao est allé, quand on a aligné avec des fusils les gardes impériaux chinois. Une charge de cavalerie, c'est très bien, mais si vous avez des gars qui servent une mitrailleuse, ça ne tient pas à la distance.
Oui, mais dire que tout de même, il y a eu un écho chez les Mongols, puisqu'il a quand même eu des milliers de volontaires.
Il y a eu un certain écho chez les Mongols.
Les Mongols, au nom de quoi? Au nom d'un mythe oublié?
Oui.
Ou bien parce que le chef les impressionnait?
Non, je pense que parce qu'effectivement, ça correspondait à quelque chose dans leur société de la steppe, dans leur vision. Et puis ils avaient été. C'est le moment où l'Empire chinois craque. Et les Mongols, traditionnellement, depuis la conquête manchoue, avaient leur fidélité vis-à-vis de la dynastie manchoue. La dynastie manchoue craque, voilà des gens qui perdent leur cadre de référence et qui se cherchent une identité qui ne passait plus par Pékin et la dynastie manchoue. Cette identité, ils la retrouvent à travers leur vieux mythe et ça continue. Et actuellement, on refait vivre en Mongolie le mythe de Gengis Khan.
Donc les civilisations sont toujours là.
Ils sont toujours là, à ceci près que maintenant ils font plus très peur, les Mongols.
Non, mais le mythe est toujours porteur.
Ah, le mythe est évidemment porteur. Et vous avez actuellement, quand ils refont le Nadam, la grande fête du Nouvel An en Mongolie, vous avez un personnage qui est costumé en Gengis Khan, c'est-à-dire qui revivifie concrètement le mythe de Gengis Khan.
Essayer de faire la même fête avec déguisé en Charles Martel à Poitiers en France, ça marchera pas aussi bien que Gengis Khan en Mongolie. Hein.
On fait bien la fête de Jeanne d'Arc. Vous connaissez bon. Les esprits.
Bien, Jacques Népote, une dernière question puisqu'on parlait de modernité et d'échec de la modernité. Au début du XVe siècle, sous l'Empire Ming en Chine, apparaît née une marine. La Chine va s'ouvrir à l'extérieur. Et que se passe-t-il dans les règnes qui suivent? Car cette marine n'aura absolument aucune destinée, elle sera même, cette politique va être interrompue. Que se passe-t-il dans cette industrie chinoise?
Alors, c'est une des conséquences différées de l'Empire chinois. Je vous ai expliqué que, en fait, l'opération mongole, c'était recentrer l'Eurasie sur le réseau des steppes. À partir du moment où cette formule se casse, on revient à la phase antérieure, c'est-à-dire les circulations se font par la mer. L'Empire chinois qui se reconstitue pour arriver à réaffirmer son autorité sur la mer, lance des flottes, on va dire un siècle avant les grandes découvertes occidentales, lance des flottes considérables, avec pour fonction d'articuler la mer de Chine avec l'océan Indien, puisque les flottes chinoises sont allées jusqu'en mer Rouge.
Ah, tout à fait, tout à fait. On a des traces très nettes.
Dans le micro, s'il te plaît.
On a vraiment des traces très nettes attestées de navires chinois qui viennent jusqu'à la rupture de charge qui est ou Aden ou l'un ou l'autre port du sud de la mer Rouge. Et l'on a des traces attestées de jonques chinoises, mystérieuses et sournoises, comme dit la chanson. Des jonques chinoises qui arrivent jusque dans le littoral de l'océan Indien.
De l'Est africain.
Dans l'Est africain.
Cela dit, c'est une opération de propagande, et ce dont l'Empire des Ming a besoin, c'est simplement qu'on laisse les commerçants chinois faire le commerce en mer de Chine et légèrement déborder l'océan Indien. Une fois qu'ils ont fait leur démonstration de force, c'est terminé, ça les intéresse plus. Et puis de toute façon, ils ont de nouveau les Mongols du côté de l'Asie centrale qui les embêtent. Alors, ils déplacent leur capitale de Nankin à Pékin et désormais, ils se battent contre les barbares de l'intérieur.
Une question d'auditeur, Dominique Vénère, vous voulez rajouter quelque chose? Parce que moi, j'ai une question à vous poser, à vous. En conclusion,
j'ai deux choses qui reviennent, mais sur le début.
Pas sur l'Afrique.
Sur l'islam. Bon.
Allez-y.
Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, malgré les missionnaires catholiques envoyés dans le monde entier, nous n'arrivons pas à convertir les gens, alors que l'islam n'a pas de missionnaires et s'amplifie de plus en plus dans le monde?
Alors, Dominique Vénère, il nous reste quelques minutes, il tente de conclure. J'aimerais vous poser une question dont on parlait de manière accessoire de la Chine. Face au défi de la technique et de la puissance occidentale, au XIXe siècle, deux pays vont réagir différemment, la Chine et le Japon. Enfin, le Japon, pas au XIXe, a commencé au XVIIIe. Pourquoi ces deux pays vont-ils réagir différemment? La Chine, vous allez me voir de conclure sur le numéro d'enquête sur la Nouvelle Revue d'Histoire.
La Chine et le Japon ont été confrontés une première fois à ce que l'on pourrait appeler, dans une certaine mesure, un choc de civilisation au XVIe siècle. Puisque au XVIe siècle, d'abord au Japon, des missionnaires européens, portugais, ensuite espagnol, aborde, se font dans un premier temps accepter pour des raisons qui sont peu religieuses, qui ont généralement trait aux avantages techniques qu'ils apportent, et précisément aux armes à feu, qui sont évidemment des instruments nouveaux, qui intéresse vivement les seigneurs japonais locaux, c'est ce qu'on appelle les daimyo. Nous sommes dans une époque de guerre féodale et chacun des seigneurs, chacun des daimyo souhaite disposer évidemment d'instruments, d'armes efficaces contre ses adversaires. Alors, les missionnaires apporte non seulement le message religieux, mais curieusement, ils apportent aussi les armes. Et ils sont accueillis d'abord et avant tout parce qu'ils apportent les armes. Ensuite, pour des raisons diverses, ils obtiendront quelques conversions, et au siècle suivant, les réactions se feront de plus en plus vives, et jusqu'au moment où ces missionnaires seront à la fois expulsés et parfois mis à mort. En Chine, les choses se sont passées de façon un petit peu analogue, si l'on simplifie beaucoup, c'est-à-dire que à peu près dans la même période, un petit peu plus tard dans le XVIe siècle, puisque je crois que c'est en 1583 que un homme certainement d'une grande qualité, qui était Matteo Ricci, qui était un jésuite, s'installe à proximité de Canton et s'efforce d'établir des relations avec les lettrés chinois. Et en effet, il parvient à établir des relations. Il porte en lui une intention entre guillemets stratégique, c'est-à-dire que il sait qu'il aborde dans un pays de très vieille civilisation, et il n'a pas affaire à des sauvages entre guillemets, et il n'est pas possible de pratiquer une stratégie missionnaire directe. Donc ce qu'il s'efforce, c'est d'intéresser les lettrés chinois par ses propres connaissances. Il ne se présente pas comme ayant l'intention de les convertir, mais comme quelqu'un de très intéressé par le confucianisme, et peu à peu, il s'efforce de présenter le christianisme comme étant très proche du confucianisme, mais allant plus loin, apportant quelque chose de plus, etc. etc. Et ce discours, en raison de ses qualités intellectuelles tout à fait remarquables, en raison aussi des instruments qu'il apporte, lui il n'apporte pas de mousquet, mais il apporte des horloges, etc. Il intéresse donc les lettrés chinois. Jusqu'au moment où ceux-ci vont découvrir qu'il y a une entreprise de conquête intellectuelle, religieuse, et éventuellement de conquête commerciale et de conquête tout court, qui peut être introduite par cette action. Ce qui fait que dans le cours du XVIIe siècle, à partir de 1620, les lettrés vont peu à peu se fermer à cette influence, et au début du XVIIIe siècle, comme cela se passe au Japon, la Chine va se fermer à l'influence des missionnaires catholiques. Je simplifie énormément. Et puis intervient une deuxième phase totalement différente au XIXe siècle, avec l'irruption cette fois non plus de missionnaires, même si les missionnaires parfois jouent un rôle, mais c'est l'irruption de la puissance entre guillemets occidentale, c'est-à-dire les Américains et les Britanniques, Français, etc., qui s'efforcent d'ouvrir la Chine et le Japon à l'influence occidentale et d'abord au commerce occidental. Alors, comme on le sait, les choses commencent en 1839 par la première guerre de l'opium. Choc terrible pour la Chine, qui est défaite en 1842. Contre-coup au Japon également. Et devant le choc de la puissance occidentale et de la technique occidentale, Chine et Japon vont réagir très différemment. Le Japon va trouver en lui-même ses propres réponses en associant, ou en s'efforçant d'associer, en associant, c'est une réussite, en associant tradition et modernité, ce que la Chine ne pourra pas faire à la même époque.
Que nous développerons probablement dans une prochaine émission. Merci Dominique Vénère. Alors, je donne rendez-vous à nos auditeurs au 6 août pour la prochaine émission. Émission qui sera enregistrée, car nous l'avons enregistrée, car nous ne serons pas là au mois d'août. Et pour la prochaine émission en direct, rendez-vous le 24 septembre avec l'équipe habituelle. Victoria, vous avez un certain nombre d'annonces à faire ou à refaire.
Quelques petits commentaires encore. Merci pour votre émission, dit cette auditrice, et merci pour votre remarquable revue qui nous instruit et nous remonte le moral. On ne peut que vous encourager, ajoute cet auditeur. Et pour le faire, un troisième auditeur souhaiterait acheter tous les numéros déjà parus. Alors, où s'adresser, demande-t-il? Je réponds. Nouvelle revue d'histoire, 88 avenue des Ternes, Paris 17e.
Oui, j'ajoute, si vous permettez, Victoria, qu'effectivement, il est possible d'acquérir les anciens numéros. Il suffit de nous écrire. c'est parfaitement faisable. Nous avons prévu les choses de cette façon.
Oui, mais j'ai une question à vous poser. Si on commence un numéro, il faut envoyer 6 euros plus 2 euros de port. Mmh. Mais si on demande les 7 d'un coup, qu'est-ce qu'on fait comme port? Alors, est-ce qu'on envoie 6 fois 7 8 fois 7
Alors, on 56
On téléphone avant. Tout de suite le numéro. Il le sait pas par cœur. Il sera fusillé.
La nouvelle bon. 01 40 54 01 70.
Le voilà gracié.
Bien, annonce, il vous reste une minute.
Attendez, j'ai encore dernier exemplaire paru de l'Afrique réelle, c'est le numéro 40. Alors, on peut le commander à l'Afrique réelle, boîte postale 6, 03 140 Charroux. L'exemplaire seul, c'est 20 euros. Mais ce qui est bien mieux, c'est de s'abonner, 58 euros pour 4 numéros à la même adresse. Afrique réelle, boîte postale 6, 03 140 Charroux.
Les annonces sont terminées. Eh bien, bonsoir Victoria, bonsoir Jacques Népot, bonsoir Dominique Vénère, bonsoir Philippe Conrad, bonsoir à nos amis de la régie et chers auditeurs, bonsoir. Rendez-vous donc au 6 août.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, 6, à Caen sur 106. À Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 juillet 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 10, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.